fait pour le vrai monde.
Québec, Rock City, Boulevard 102. Maintenant, 100% parlé en semaine. Le week-end, le meilleur rock. Rock. Des années 90 à aujourd'hui. Le Garage à Dalles. Le Boulevard du Rock. Le Rock and Chill. Les Colosses du Rock.
Boulevard 102, la meilleure musique de la business.
102-1. Boulevard! 102-1. On en jase à Boulevard 102-1. Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Le midi,
on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102-1.
Midi, une minute. Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102-1, ton émission d'actualité. On attend Joël Lightbound qui devrait être avec nous vers midi 10. Grosse annonce au port de Québec aujourd'hui. Le projet QSL, ce projet de transport de conteneurs à partir de Québec, va devenir un terminal de conteneurs. Très grosse nouvelle économique, on va en parler avec lui. Mathias Turcotte va nous amener également quelques réactions. On va aussi parler avec Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin. Ils ont commencé le ménage de printemps il y a 2 semaines, Pascal Séva.
Et puis on l'a niaisé sur les nids de poules aussi à Saint-Augustin.
Oui, on va y reparler de ça.
Et tout de suite après l'émission, je suis remonté. Qu'est-ce qu'on faisait pas avec la voirie?
Ah oui, hein?
On remplissait 2 nids de poule.
Exactement. L'efficacité même. Lambert Drainville va être là pour sa chronique politique également. On va revenir sur la première semaine de Christine Fréchette. Et Alicia Despins va être avec nous pour sa chronique municipale. À la météo, 9 degrés. À l'heure actuelle, généralement nuageux. 11 degrés demain, alternance de soleil et nuages. Et 14 degrés ensoleillés pour dimanche. 418-971-1021 pour réagir avec nous. Et vous pouvez nous écouter via l'application BLVD 102.1. Pascal, j'étais nerveux. Alex Laramé sur le bord, il est là sur Zoom. On est prêt à parler du match canadien contre le Lightning de Tampa Bay parce que c'est ce soir le troisième match. Mais là, pendant que j'étais nerveux, là, raconte-moi donc 2-3 petites nouvelles avant qu'on se lance dans le hockey.
Je vais te faire patienter avec justement ce dont on va parler avec nos invités un peu plus tard à l'émission, mais le gouvernement fédéral qui a officiellement désigné le port de Québec comme terminal de conteneurs international. Ça ouvre la voie au projet de l'entreprise QSL dans la baie de Beauport et ça fait pas l'unanimité. On en parlait et on en reparlera, mais il y en a qui n'ont pas confiance envers le processus d'évaluation du port de Québec. C'est des groupes opposés au projet qui lèvent la main et ça, c'est dans le secteur de Beauport. On demande une intervention du bureau d'audience public sur l'environnement et de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Bon, c'est une certification qui est attendue depuis plus de 2 ans. On a travaillé fort là-dessus. Ça va permettre de déposer formellement le projet auprès de l'administration portuaire de Québec. Et c'est peu hein, de ports qui ont cette possibilité-là. Pour le projet QSL, on vise la manutention d'environ 200 000 conteneurs par année dans un terminal en eau profonde. Et avec cette décision-là, bien la province rejoint les 5 ports canadiens autorisés à traiter des conteneurs internationaux. Ça renforcit le rôle stratégique dans le transport maritime. Je vais te parler de Christine Fréchette, qui est en route vers Washington. En fait, la première ministre ira aux États-Unis lundi prochain. On rencontre des élus américains et des gens d'affaires. Il s'agit majoritairement d'une mission économique, Jeff, et aussi de relations. On s'en va défendre les intérêts du Québec en vue de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Madame Fréchette va rencontrer aussi des représentants de l'industrie de l'aluminium et des constructeurs d'habitations. On a une petite nouvelle concernant cette entente de principe avec les médecins qui a été acceptée. Les membres de la Fédération des médecins spécialistes qui ont dit oui hier soir à l'entente de principe avec le gouvernement du Québec, proportion de 86 %, c'est très haut. Entente qui comprend une augmentation de 9 % sur l'enveloppe destinée à la rémunération des médecins spécialistes, à laquelle on ajoute un 2 % selon l'atteinte des cibles de performance. Puis dans les dernières heures, c'est le départ de François Legault qui aurait permis la conclusion d'une entente. C'est ce que dit le docteur Vincent Oliva, qui est à la tête de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. C'est gros. On comprend un peu le en arrière de tout ça. Et je finis avec un jeune de 16 ans qui a été atteint par balle et qui s'est présenté la nuit dernière à l'hôpital L'Enfant Jésus. Autorités qui ont été averties autour de 5h15. Les circonstances demeurent nébuleuses. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a aussi une scène de crime qui a été érigée dans le secteur. Là, on suit les traces de sang laissées par la victime sur la chaussée. On voulait les protéger. Et malgré l'importance des blessures, la vie de l'adolescent n'est pas en danger.
Ça va être l'enfer au Centre Bell ce soir. Le toit de l'aréna va se soulever lorsque le Canadien va embarquer sur la patinoire. Et pour en parler avec nous, on a notre chroniqueur sportif, Alex Laramin. Alex, es-tu énervé?
Ah ouais, j'ai vraiment hâte au match de ce soir. Comme tout Montréal, les drapeaux sont sortis. Je pense que les bars vont, les restos vont être pleins. Non, la ville va être survoltée ce soir-là.
Exactement. Contrairement à l'an passé, le Canadien est à égalité 1-1 dans la série à son retour à domicile. Et là, avec les performances du Canadien durant la saison en entier, l'an passé, ça avait été une poussée de fin de saison. Les partisans y croient là, à une longue poussée du Canadien en série.
Ben oui, effectivement, puis on l'a vu dans les deux premiers matchs, là, je veux dire, le Canadien est là dans cette série-là, là. C'est pas un pour rien. On était littéralement à un lancé d'avoir les deux victoires à Tampa Bay, donc ça va être des matchs très serrés, puis là, avec l'avantage de la glace, moi, honnêtement, je vois pas un scénario comment les joueurs du Canadien peuvent pas sortir comme un canon en début de match, puis même de gagner ce match-là. Selon moi, il va trop avoir d'ambiance. Oui, John Cooper a essayé de jouer là, dans la tête du monde en disant que les joueurs... Partisans du Canadien allaient applaudir Brendan Hagel. Oubliez ça, là, il va se faire ruer à chaque fois qu'il va toucher à puck, là. Mais non, selon moi, l'ambiance va propulser le Canadien ce soir.
Exactement. John Cooper, là, pour ceux qui se demandent pourquoi il a dit ça, c'est que Brendan Hagel, à la Coupe des Quatre Nations l'an dernier, avait jeté les gants contre Matthew Tkachuk au Centre Bell, ce fameux match où trois batailles ont éclaté en dedans de 7 secondes. Il avait donné une volée à Matthew Tkachuk et il avait soulevé le Centre Bell à lui-même. Donc, c'est pour ça que John Cooper est revenu là-dessus. Bon, Martin Saint-Louis a lancé un message aux partisans. Il faut se serrer les coudes parce qu'on le sait, Kirby Dack a été victime de messages haineux sur les médias sociaux. Est-ce qu'on envoie Dack dans la mêlée ou on le garde justement à l'extérieur pour pas qu'il arrive de débordements négatifs durant le match?
Ben, on le sait, hein, Martin Saint-Louis, ça fait quelques semaines qu'il ne dévoile plus son alignement, mais aux pratiques matinales, on a déjà une bonne idée, là.
Oui.
Puis, de ce qu'on a vu, Gallagher et Veleno font encore du temps en extra, ce qui laisse vraiment présager que Kirby Dach va être dans l'alignement, qu'il n'y aura pas de changement ce soir. J'ai pas le choix de dire que personnellement, là, je ne suis pas très en accord avec cette décision-là. Là, pour moi, j'aurais vraiment enlevé Kirby Dach. Mais par exemple, je pense que c'est François Gagnon d'RDS qui écrivait là-dessus, qui disait c'est vraiment le test ultime pour Dach. Là. Il sait que tout le spotlight est sur lui. S'il ne sort pas une bonne performance ce soir, c'est terminé pour
ouais,
lui
mais
à
c'est
Montréal.
Tellement stressant. Tu sais, je vous écoute, là, vous mettez tellement de pression. Ça peut tellement être stressant pour un joueur. Si c'est ça, c'est le moment où on évalue ça. Je comprends, là. Au pire, sort de la cuisine s'il trouve qu'il fait trop chaud, là, mais quand même, là.
Ouais, c'est mettre beaucoup de pression sur un joueur, sur un match. Au final, c'est 60 minutes. Kirby Dach va peut-être jouer 15 minutes, là. Fait que sa carrière à Montréal pratiquement joue sur les 15 minutes qu'il va jouer ce soir. Mais je pense que c'est la réalité des joueurs de hockey. Puis en série, ça monte d'une coche. Puis malheureusement, il s'est mis dans cette position-là avec sa performance dans le dernier match. Là, c'est plate, mais c'est ça.
Ta prédiction pour ce soir, Alex Laramé, moi ce matin, j'ai dit 3-2 Canadiens avec un but gagnant de Cole Caulfield. Je crois que le meilleur marqueur du Canadien en saison va sortir de sa coquille au Centre Bell. T'en penses quoi?
Moi, je pense que ça va être une victoire de 3-2. Puis c'est drôle que tu parles de Cole Caulfield. Si vous n'avez pas lu ça, The Players Tribune, Cole Caulfield a sorti un texte. C'est vraiment long, mais honnêtement, ça vaut la peine. Ça s'appelle « Can someone get my old man a Canadian hat? » Des références au moment où il a marqué son 50e but, puis le père de Cole Caulfield avait une casquette des Brewers. Là, il parle de sa jeunesse, comment il a grandi, comment il s'est développé dans le hockey. Honnêtement, c'est un texte vraiment émotif, puis ça met la table pour le match de ce soir. Players Tribune, texte de Cole Caulfield, d'aller lire ça.
On va aller lire ceci avec un immense plaisir. Alex, sinon, hier, les Sénateurs d'Ottawa qui n'ont échappé une troisième de suite vont faire face à l'élimination et leur meilleur défenseur, Jake Sanderson, est blessé. On parle d'une commotion cérébrale.
Ah ouais, non, c'est une sentence de mort, ça, pour les Sénateurs d'Ottawa. Là, c'est plate. C'est leur premier match à domicile. Ils se devaient de gagner ce match-là. En retard 0-3, je veux dire, même s'ils gagnent le match numéro 4, après on retourne en Caroline, puis c'est terminé match 5. Moi, j'avais prédit en fait une victoire des Hurricanes en 5. C'est un peu le scénario qu'on est en train de voir. Là. Puis on s'en parlait hier. Les Hurricanes sont trop forts, sont trop rapides.
Ah, ils ont une structure de jeu. Cette équipe-là est menée de main de maître par Rod Brind'Amour depuis plusieurs saisons. Et ça paraît. Dans les autres matchs hier soir, ben, sans surprise, Avalanche du Colorado a pris les devants 3-0 dans la série avec une victoire de 4-2. Mais les Sabres de Buffalo, Alex, ont pris les devants 2-1 dans la série. Ils ont vraiment joué leur meilleur match de la série hier sur la route à Boston, l'emportant 3-1, avec un changement devant le filet. C'était Alex Lyon qui a très bien fait avec 24 arrêts.
Ouais, ben je pense que ça leur prenait une étincelle là, du côté des Sabres de Buffalo, surtout qu'on allait à Boston, au TD Garden. Et Alex Lyon a peut-être été le changement, en fait, de gardien de but a peut-être pu fouetter là, justement les Sabres de Buffalo qui, on le sait, n'ont pas beaucoup d'expérience en série. Mais là, ce match-là, honnêtement, sont en train de nous montrer de quel bois ils chauffent. Puis il faut croire que faut commencer à les prendre au sérieux, là, les Sabres de Buffalo. C'est vraiment une bonne équipe de hockey.
Dans les autres matchs ce soir, les Golden Knights visitent les Mammouths à Utah. Premier match de l'histoire de la concession des Mammouths en série à Utah. Il va certainement avoir une superbe ambiance là-bas également. Et je crois que ça va transporter Utah. Je vois qu'une petite victoire de 4-2 pour le Mammouth.
Ah, moi aussi, je vois une victoire du Mammouth. Là, tu l'as dit, ça va être leur premier match à domicile. Donc, si t'es partisan là-bas, c'est sûr que tu veux faire le plus de bruit possible, là, créer une espèce d'ambiance de match à domicile. C'est quelque chose que créer là, pour que les clubs aient peur justement d'aller jouer en Utah. Moi aussi, là, je pense que je vois une victoire 4-3 de mon côté pour le Mammouth.
Les Oilers d'Edmonton visitent les Ducks à Anaheim. C'est 1-1 dans la série. Connor McDavid est toujours à la recherche de son premier point. Bon, là, vous allez me dire, Jeff, tu fais toujours la même maudite prédiction. Tu dis que Connor McDavid va exploser, mais ça va être ça ce soir. Il en fait 4 points, puis les Oilers gagnent 6-2, Kane.
Oh mon Dieu, ok, tu vas loin. Moi, honnêtement, j'ai vraiment été surpris là, de la réponse des Ducks là, dans le match numéro 2, surtout à Edmonton. Donc, selon moi, les Oilers se doivent de répondre. J'irais peut-être pas avec juste un 6-4, là, mais moi, j'irais plus conservateur, là, un 3-2 victoire des Oilers.
Ça. Tu fais bien d'y aller conservateur. Le Canadien joue aussi dimanche soir, 19h au Centre Bell. Moi, je pense que cette série-là va être 2-2 à la fin du week-end. J'ai mis le Canadien gagnant. Tampa Bay, c'est une équipe remplie de vétérans. Je crois qu'ils vont être capables de se relancer dimanche. Fait que j'y vais avec 3-2 Canadiens ce soir, puis je pense que Tampa Bay va faire un round de 4-2 avec un but dans un filet désert dimanche. Toi, vois-tu le Canadien gagner les deux matchs?
Non, je suis un peu comme toi. Là, moi aussi, je pense qu'on va split les deux matchs à Montréal, comme on l'a fait à Tampa Bay d'ailleurs. Donc, moi aussi, je pense qu'avec une victoire du Canadien ce soir, Tampa Bay, évidemment, va vouloir sortir très, très fort dans le match numéro 4. Donc, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué là, dimanche. Là, peut-être une victoire 4-3 pour Tampa Bay. Mais évidemment, on souhaite deux victoires du Canadien. Là, on ne veut pas être prophète de malheur, mais la logique voudrait que oui, on va sortir 2-2.
Ça va être une longue série, que veux-tu? On le savait dès le départ et c'est ce que ça va être. On termine, Alex Laramin, un petit mot sur le repêchage de la NFL hier. Qu'est-ce que tu retiens? Sans surprise, Mendoza était le premier choix.
Ben, je retiens quand même les Cards qui sont allés repêcher un running back, oui. Troisième au total. C'est assez surprenant. On sait que les running backs, souvent, pas des très longues carrières. S'ils se blessent aux jambes, souvent, c'est difficile de revenir. Donc, c'était quand même gâté. Puis, évidemment, l'histoire entre les Steelers de Pittsburgh puis les Flyers de Philadelphie qui appellent littéralement les Steelers appelle le receveur de passe, là, son nom m'échappe, Simmons de mémoire, oui. Pour lui dire qu'il est repêché, mais finalement, Philly devance Pittsburgh, s'avance au repêchage et le repêche avant que Pittsburgh puisse le repêcher, honnêtement. C'est quand même assez drôle là, comme situation hier soir.
Exactement. Alex Laramie, c'est toujours un bonheur. On se reparle lundi. Bon week-end de hockey. Go Habs go, comme on dirait.
Oh yes, go Habs go.
Excellent. Salut Alex. Bonne fin de journée. Alex Laramie, chroniqueur sportif pour nous et journaliste au 99.5 Montréal. On passe du sport à une grande visite dans nos studios. On a la chance d'avoir le lieutenant du Québec pour le Parti libéral du Canada et député de Louis-Hébert avec nous, Joël Lightbound. Monsieur Lightbound, comment allez-vous? Oh, attendez, je vais ouvrir votre micro, désolé.
Ça va aller mieux.
Ouais, donc ça va bien?
Ça va super bien.
Good.
Ça va super bien.
Grosse annonce au port de Québec aujourd'hui, projet QSL, on lance ça enfin. Donc, gros projet économique pour la région de Québec.
Oui, ça a beaucoup de potentiel d'un point de vue économique, mais nous, ce qu'on annonçait, c'est la première étape de ce projet-là, c'est-à-dire la certification du port de Québec comme port de conteneurs international. Puis juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, là, il y en a 5 au Canada. Vancouver, Prince-Rupert, Montréal, Halifax, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Québec, aujourd'hui, devient le 6e premier point d'entrée pour les conteneurs. C'est énorme parce que ça permet au port, justement, avec QSL, de présenter un projet qui soit analysé par le port, puis éventuellement qu'il y ait des conteneurs au port de Québec si le projet est avalisé par le port.
Alors, on comprend qu'il y a encore une possibilité que ça ne se fasse pas. Qu'est-ce qui empêchait Québec jusqu'à maintenant de faire partie de ces grands ports-là?
Bien, c'est d'abord, il faut un promoteur qui a un projet. Il faut la certification. La certification, c'est ce qu'on octroie aujourd'hui. Ça permet au promoteur, donc QSL, de présenter son projet, de dire exactement ce à quoi ça va ressembler, comment ça se ferait, puis de le faire aussi avec la communauté, parce que ça va avoir des impacts sur la communauté. Donc, c'est important de le faire, disons, de concert avec la population locale, de concert avec la ville. Et à ce chapitre-là, à partir du moment où QSL dépose son projet, le port de Québec, en vertu de la loi maritime du Canada, a toutes les autorités pour évaluer le projet, imposer des conditions si nécessaire, faire les études environnementales qui s'imposent. Donc, c'est là où on va présupposer de l'analyse du port. Il y a tout ce processus-là qui doit se faire. Mais de mon côté, comme ministre de la Région de Québec, quand il y a un projet qui a un tel potentiel économique qui permettrait à maturité d'accueillir 200 000 conteneurs au port de Québec, qui permettrait à nos entreprises aussi de livrer à moindre coût, d'être plus compétitives parce qu'il y aurait un port où ils peuvent livrer plus proche de l'origine des produits et importer aussi plus proche de la destination. Parce que ce qui se passe, par exemple, en ce moment, c'est que tu vas avoir des marchandises qui arrivent à Montréal puis qui reviennent en camion vers l'est du Québec, vers la région de Québec. Donc là, on éviterait ce va-et-vient, ce qui est bon pour l'environnement aussi. Donc, il y a beaucoup d'externalités potentiellement positives de ce projet-là, puis des retombées économiques, des dizaines de millions, des emplois.
Vous répondez quoi aux opposants qui vous demandent, vous, le gouvernement du Canada, de faire l'étude environnementale? Parce que là, elle va être traitée par le port, puis ces opposants-là disent, ouais, mais là, les dés sont pipés d'avance. C'est le port qui va faire une étude pour un projet qu'ils veulent.
Non, mais le port a des obligations légale très stricte de bien faire le travail, de le faire avec beaucoup de sérieux, de rigueur, avec beaucoup de transparence. C'est avec ça qu'ils sont tenus de le faire légalement. Puis ensuite, ils ont aussi des pouvoirs. Donc, ils ont cette obligation-là, mais les pouvoirs d'imposer des conditions aussi aux promoteurs pour dire on veut s'assurer que ça se fasse dans le respect de la communauté. Puis la présidente du port, Olga Farman, est très, 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 disons, connectée sur la population de Québec, veut que le port devienne une institution dont on est fier, qu'on habite, qui nous représente. Puis je pense qu'à ce chapitre-là, c'est de bon augure pour la suite des choses.
Ça vient avec beaucoup de potentiel économique, mais aussi beaucoup de potentiel, malheureusement, de criminalité. Là, on parle de port, on voit que c'est des enjeux partout dans le monde, mais au Canada aussi, dans tout ce qui est exportation, importation de drogue, un roulement au niveau des vols, vols de voitures, on en voit beaucoup à Montréal parce qu'ils ont cette possibilité-là. Est-ce que ça, c'est travailler en amont aussi dans un projet qu'on souhaite intégrer ici dans la ville?
Bien, nous, tu sais, l'annonce que je faisais aujourd'hui, ça se fait vraiment avec l'Agence des services frontaliers du Canada, c'est que quand on annonce la certification comme on le fait aujourd'hui, ça vient avec des douaniers. On parle à peu près dans ce projet-là jusqu'à 14-15 douaniers. Ça vient aussi avec des technologies pour bien, disons, inspecter les conteneurs qui arriveraient au port de Québec. Moi, j'ai confiance aux services frontaliers pour s'assurer que les choses se fassent dans les règles de l'art au port de Québec.
Vous n'êtes pas un menteur, M. Lightbound, parce que la dernière fois que vous êtes venu en studio, vous avez dit quand je revenais, ça va être pour faire une annonce. Mais on s'attendait à l'annonce du financement du tramway. Ça va être quand, ça? Quand est-ce que vous revenez vous asseoir pour cette annonce-là?
Bon, je pense, j'étais sûr qu'on allait parler du tramway.
Ah ouais, vous pensiez? Ben, je sais pas. On en parle-tu à Québec présentement? Y a-tu des arbres qui vont se faire couper? Le boulevard Laurier, tu rends une voie de chaque côté? Ah ouais, je pense qu'on en parle.
On en parle un peu, mais
Et
puis pour le financement fédéral, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a une entente majeure qui doit être conclue avec Québec sur le transport en commun. Mm-hmm. À l'échelle du pays, là, on parle de 25 milliards sur 10 ans, en plus d'un financement pour les infrastructures, dont potentiellement le transport en commun d'à peu près 13 milliards. C'est qu'à partir de ces enveloppes-là, du moment qu'on s'entend avec Québec, il est possible pour Québec de prioriser le tramway, d'augmenter la part du fédéral dans le financement du tramway. Puis j'observe qu'avec l'arrivée de Mme Fréchette, ils ont eu une rencontre, la première ministre du Québec avec M. Carney. Il y a une grande volonté d'aller rapidement pour régler ces ententes-là. C'est avec moi, je vais bien travailler avec Jean Boulet, je vais bien travailler avec Bernard Drinville aussi, c'est dans la région de Québec, Jean-François Simard.
La CAQ vise la Saint-Jean-Baptiste, faire une belle annonce de nationalisme pour le Québec surréaliste?
Le plus tôt sera le mieux en ce qui me concerne. On y travaille, puis les équipes sont mobilisées, les fonctionnaires sont mobilisés. J'espère qu'on va arriver à une entente rapidement.
Parce que l'enveloppe est sur la table, on sait qu'elle peut être signée, mais elle n'est pas signée. Puis il y a encore beaucoup de rififi au sein de différents paliers gouvernementaux, mais aussi des acteurs principaux du projet. Dans la région, c'est aussi difficile. Ça ne semble pas être facilement dénouable.
Quand la volonté politique y est, et elle l'est, des deux côtés, je pense que ça peut se dénouer.
Ça ne l'était pas avant, avec sous M. Legault?
J'avais la même
disons
question.
Disons que de part et d'autre, là, je veux pas, c'est jamais simple, signer ces ententes-là. Et il y a des particularités propres au Québec aussi, des fois, qui rendent les choses un petit peu plus compliquées. Mais ceci étant, la volonté y est. Puis quand vous regardez M. Carney avance à un rythme très soutenu dans tous les projets, que ce soit la signature d'accords commerciaux, que ce soit le financement de logements, que ce soit les grands projets comme on, ou la diversification des marchés comme on annonce aujourd'hui. Je veux dire, moi, ça fait moins d'un an que je suis ministre. C'était un dossier prioritaire, la certification du port de Québec. Il y en a 5 au pays, c'est le 6e aujourd'hui. À l'échelle là, de l'avancement des dossiers en politique, c'est très rapide comme dénouement.
Sondage léger aujourd'hui, plus de 60% des Québécois souhaitent que le Québec ait plus d'autonomie. En tant que lieutenant du Québec, allez-vous faire de la pression sur votre premier ministre pour qu'il y ait des pouvoirs qui s'en aient justement à la province?
Bien, moi, je suis toujours là pour travailler dans l'intérêt des Québécois, puis qu'on livre le plus possible. Puis oui, il y a des enjeux où le transport en commun, c'est un peu plus long, mais il y en a d'autres aussi qui ont été très rapidement. Je pense par exemple à Maison Canada, donc notre plan ambitieux. Non, mais c'est vrai, puis on a annoncé d'ailleurs...
Est-ce que si j'entends encore M. Carney
le dire? On rit parce qu'on entend mentir Maison Canada.
On remonte. Mais Maison Canada dorénavant. Mais le Québec a été la première province à s'entendre avec le fédéral.
Mais en immigration, pourrait-il avoir plus de pouvoir au Québec?
En immigration, mais quand vous regardez, par exemple, sur les travailleurs étrangers temporaires, j'ai annoncé il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois, une entente qui est spécifique pour le Québec, qui donne plus de pouvoir au Québec pour prolonger le permis des travailleurs étrangers temporaires. Donc, il y a toujours manière de s'entendre. Puis, je pense qu'on travaille les deux paliers de gouvernement dans la même direction. Là.
Si vous pouvez me permettre une réponse qui n'est pas politicienne, je serais vraiment contente pour cette question-là, parce qu'on voit justement dans le comité de M. Carney aussi pour les négociations économiques aux États-Unis, beaucoup d'acteurs influents du Québec. On voit que vous prenez votre position au sérieux. On voit que vous ne voulez pas vous prononcer sur le fait si le départ de M. François Legault a aidé à certaines ententes. Pourtant, il y en a qui se le permettent. Le docteur Vincent Oliva, aujourd'hui de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, a dit que c'est le départ de M. Legault qui a permis une entente et tout ça. Est-ce que le Québec a une nouvelle ère à suivre? Est-ce qu'on prend plus la province au sérieux en ce moment où on est encore dans un statut où il faut vraiment se battre?
De notre côté, au gouvernement fédéral, on a toujours pris les demandes du Québec au sérieux. Puis je pense que M. Legault là, a fait vraiment beaucoup. Moi, je salue son engagement politique. Puis quand je pense, par exemple, Maison Canada, c'est un exemple où c'était avec M. Legault qu'on a signé. On a très bien travaillé aussi pour le chantier Davy avec le gouvernement du Québec. Il y a plusieurs exemples de bonne collaboration avec le gouvernement du Québec. Des fois, malheureusement, par la force des choses, on se concentre plus sur ce qui marche moins bien ou ce qui est plus difficile. Mais non, je ne commencerai pas à dire. C'est juste qu'il y a une fenêtre quant à l'arrivée d'une nouvelle première ministre, puis avec une échéance électorale aussi qui arrive à l'automne, il y a une grande volonté de régler les dossiers puis de le faire rapidement. Puis ça, je salue ça parce que je pense que c'est dans l'intérêt des Québécois.
En terminant, M. Lightbound, Mark Carney joue le jeu de la patience présentement dans les négociations avec les États-Unis, mais Christine Fréchette s'en va à Washington lundi. Ça doit vous déranger, ça, de voir que la province de Québec s'en va à Washington quand vous jouez une stratégie différente?
Pas du tout. Je pense qu'on est tous dans la même équipe. Puis je sais que Mme Fréchette est en communication constante aussi avec tant le premier ministre, son équipe, mais Dominique Leblanc aussi qui est en charge du dossier, puis qu'on met à la disposition de Québec.
Mais tu sais, quand ce n'est pas toujours la même personne qui parle, à un moment donné, il y a peut-être des enjeux à avoir sur le message.
On est dans les négociations avec les Américains, on est tous dans la même équipe. On l'est avec Mme Fréchette, on l'est avec le gouvernement du Québec. Puis, je veux dire, de notre côté, oui, c'est fondamental d'avoir la meilleure entente. On ne signera pas n'importe quelle entente avec les Américains, mais le premier ministre se disait cette semaine, on se lève le matin en se disant qu'est-ce qu'on peut faire qui est dans notre contrôle. Puis ça, c'est par exemple diversifier nos marchés. Ça touche l'annonce qu'on fait aujourd'hui au port de Québec, mais ça touche aussi, je regarde le premier ministre, il y a 20 ententes commerciales et de sécurité qu'on a signées sur 4 continents dans la dernière année. C'est du jamais vu. C'est qu'on augmente, disons, les débouchés pour les entreprises canadiennes à l'extérieur. Puis je pense que ça, c'est de notre sort. C'est fondamental de le faire.
Excellent. On se reparle dans la semaine du 15 juin parce que, Pascal, c'est la semaine juste avant la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est là, normalement, qu'il va y avoir des ententes pour les infrastructures, le transport en commun, donc le tramway. C'est pas pire, hein? On met ça à l'agenda.
Vous avez le scoop ici à Boulevard.
Ouais, ben c'est ça. Vous choisirez votre date là, entre le 15 puis le 19 juin. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Ça marche.
Vous êtes imperturbable, M. Lightbaum.
Imperturbable.
Ben oui, on ça, pose plein de questions, puis il y a toujours la réponse, Pascal. Il est imperturbable.
En politique, il faut quand même avoir la coinure puis avoir le sang-froid.
Cool. Hey, la famille va bien?
La famille va bien, les nuits un peu moins, mais la famille va bien.
Bon, OK, c'est pas juste des cernes de politiciens?
Non. C'est inégal.
Cool, hein? Puis tant qu'à jaser, là, on jase pour jaser. Votre ami Farnell qui se lance en politique?
Votre ami Farnell qui se lance en politique.
Ben oui, vous en pensez quoi? Parti libéral du Québec?
Moi, l'autre jour, je suis tombé sur des photos sur Facebook avec Farnell quand on avait 18 ans au Cégep.
Ouais.
C'est une amitié qui remonte de longue date.
Ah oui, parce que là, vous étiez battu pour le président du Cégep.
Exactement.
Là, vous m'avez tout raconté ça.
commence
et,
tôt.
Et de ça est née une amitié, hein, comme quoi des fois nos adversaires politiques peuvent devenir de grands amis.
Ah, pensez-vous que c'est la même chose pour Mme Fréchette puis M. Drainville? Ou...
Ah, écoutez, faudrait leur demander la question. Je pense que M. Drainville était
allez-vous
ici.
Allez-vous devenir
ami
avec Pierre Poilievre?
Plus dur à répondre.
Je vais revenir à Farnell.
mais par rapport à Farnell, moi, je pense que ça ferait un excellent député je lui souhaite tout le meilleur pour la suite des choses.
Monsieur Lightbound, merci de votre présence. On apprécie grandement. On se redonne rendez-vous au mois de juin.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. C'était Joël Lightbound, ministre fédéral de la transformation gouvernementale et également lieutenant du Québec pour le Parti libéral du Canada. On est revenu sur cette belle annonce. Projet QSL au port de Québec aujourd'hui. Avant d'aller en pause, Pascal, il y a de la circulation?
On mentionne un incident sur Henri IV Nord à la hauteur Sainte-Geneviève. Une automobile en feu. En fait, les pompiers seraient sur place. Donc, les services d'urgence, c'est sûr, ça ralentit le secteur.
Merci beaucoup. Après la pause, Mathias Turcotte vient en onde. Il va nous présenter d'autres réactions concernant le projet QSL. Et on va parler de ce document sur génération trans. Est-ce qu'on doit permettre à des jeunes de 14 ans de choisir leur sexe? C'est un document du cinéaste Jean-Philippe Roy. La présentation a été annulée au cinéma Cartier en raison de pression de groupes LGBTQ+. Merci Pascal. On en parle après cette courte pause à Boulevard 102.1.
Martin et Pascal CV.
Eh bien oui, l'émission N'en jase. On aime tellement faire cette émission-là avec vous et pour vous. Il est midi 32, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Vous avez été quand même plusieurs à le faire durant l'entrevue avec Joël Lightbound. D'ailleurs, Isabelle, hein, qui était, comme toi, Pascal, inquiète pour les cartels de drogue qui pourraient justement prendre d'assaut le port de Québec.
C'est tellement important. Puis, tu sais, avec tout le crime organisé, la guerre aux stupéfiants, on voit à Sept-Îles, c'est intense. À Québec, intense. Mais tu sais, je parle de Sept-Îles puis de Québec, c'est parce qu'on ne s'attendait pas à ça dans les dernières années à ce point. Fait que je me dis, avec le port, est-ce que ça peut être encore plus impressionnant ce qu'on va vivre? On a une pénurie au sein du SPVL d'agents. Tu sais, ça reste hyper important.
Oui. Notre programmation de semaine est 100% parlé. Notre programmation de fin de semaine est 100% musique et ça commence dès ce soir avec le Garage à Dan. Dan Caron qui vous présente les meilleurs classiques rock. Samedi, dimanche matin à 7h, c'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot, de la belle musique acoustique juste à souhait. De 10h à 15h, c'est le Boulevard du Rock avec Dan Caron et Colosse qui est là le dimanche. C'est les nouveautés rock qu'on joue habituellement. Et à partir de 15h, les samedis et dimanches, c'est les Colosse du rock où là on met ça plus edgy, on monte le volume du System of a Down, entre autres du Rage Against the Machine. Et cette fin de semaine, vous pourriez gagner vos billets pour le salon de l'autosport qui aura lieu du 1er au 3 mai prochain au Centre de Foire de Québec. Et Dan Caron et Colosse seront sur place cette fin de semaine-là pour animer le Boulevard du Rock. Avant de parler d'autres réactions dans le projet QSL, Pascal, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
Je reviens avec un peu d'infos sur QSL aussi avant qu'on aille jaser à Mathias Turcotte, mais il faut que je rementionne que les membres de la Fédération des médecins spécialistes ont accepté hier soir leur entente de principe avec le gouvernement du Québec. Proportion de 86%, c'est énorme. Entente qui comprend une augmentation de 9% de l'enveloppe qui est à la rémunération des médecins spécialistes et on pourrait ajouter 2% selon l'atteinte de certaines cibles de performance. Donc, au total, hausse de l'enveloppe de 11%, c'est au moins un demi-milliard de dollars. Faudrait noter qu'un 1,5% supplémentaire s'ajoute aussi pour la rémunération des chefs de département et de service. Donc, ça fait beaucoup d'argent, mais l'entente est passée. Et le départ de François Legault aurait permis cette conclusion-là d'une entente. Et c'est ce que le docteur Vincent Oliva de la Fédération des médecins spécialistes disait il y a quelques heures. Madame Fréchette, Christine Fréchette, en route vers Washington. La première ministre ira aux États-Unis lundi prochain pour aller rencontrer des élus américains et des gens d'affaires. Il s'agit majoritairement là, d'une mission économique et de relations. On s'en va défendre les intérêts du Québec en vue de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Madame Fréchette va rencontrer aussi des représentants de l'industrie de l'aluminium et constructeurs d'habitations. C'est très fort ici dans la province. Alors, on s'en va voir les acteurs influents de toute cette entente-là. Un jeune de 16 ans atteint par balle s'est présenté la nuit dernière à l'hôpital L'Enfant Jésus. Les autorités ont été averties à 5h15. Les circonstances sont encore nébuleuses. Il y a une enquête en cours. Il y a aussi une scène de crime qui a été érigée dans le secteur pour protéger les traces de sang qui étaient laissées par la victime victime sur la chaussée. Mais malgré l'importance des blessures, la vie de l'adolescent n'est pas en danger. Mais ça nous ramène à tous ces jeunes qui peut-être sont issus de mauvaises relations dans le crime organisé. Je ne peux pas encore l'établir. Les policiers ne nous ont pas confirmé quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'automatiquement, on se pose la question.
Exactement. Informez-vous ce que vos jeunes font. Prenez la peine, justement, de savoir à quel endroit ils sont. Je ne suis pas un meilleur père que personne, mais moi, j'avais un de mes gars qui avait l'habitude de traîner dans les rues. Puis j'y ai mentionné ce qui se passait avec le crime organisé. Puis j'ai dit, t'es mieux de traîner dans un sous-sol que de traîner dans les rues, puis qu'il y ait du monde qui t'approche, puis tu sais pas quoi dire, pas quoi faire. Alors, c'est le conseil que je lui ai donné. Depuis ce temps-là, ben fais le party dans le sous-sol, puis il y a bien du fun.
C'est à la maison, plus de nettoyage, mais quand même plus de sécurité.
Ouais, j'aime mieux qu'il soit à la maison, puis nettoyer, qu'il soit dans la rue, puis je me demande qui l'aborde.
Le SPVQ a procédé hier après-midi à l'arrestation d'un homme de 18 ans pour avoir braqué une arme à feu, proféré des menaces et agressions armées. C'est quand même des enquêteurs accompagnés du GTI qui se sont déplacés. Perquisition aussi qui a eu lieu au domicile du suspect. C'était dans le secteur de Sainte-Foy. Il y a une arme qui s'apparentait à une arme à feu qui a été saisie. L'homme a été rencontré par les enquêteurs. Il était détenu pour comparution. Puis les faits reprochés, ça remonterait au mois de février 2026. Pas de blessés lors de l'événement. Il y a le projet de garage Newton du réseau de transport de la capitale qui est un peu au point mort. Là. Ça fait plus d'un an après la suspension du chantier ordonné par le gouvernement du Québec. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et le soleil revenait avec ça aujourd'hui. Il y a eu des demandes répétées de relance rapide. Mais aucun développement concret qui est survenu dans le dossier. Bon, ça a été amorcé en 2021, ça a été interrompu en avril 2025. Il y a eu une explosion des coûts, on justifiait ça par ça. Et c'est passé d'environ 200 millions à plus de 647 millions de dollars. Depuis, ben, c'est là que le site a été hivernisé, puis les travaux sont complètement arrêtés. Du côté du RTC, on dit que l'infrastructure est essentielle, les garages actuels étant à pleine capacité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Décision rapide qui n'est pas rapide. Puis peu d'informations aussi qui en découlent.
Dans la deuxième heure du show, justement, on va parler avec Alicia Despins de cette problématique du garage Newton. Et on aura aussi le collègue Lambert Drainville sur la première semaine de Christine Fréchette et cette entente avec les médecins spécialistes.
Puis avant de passer à Mathias, bien, j'en parle un peu parce qu'on vient recevoir aussi Joël Lightbound à ce sujet. Mais le gouvernement fédéral a officiellement désigné le port de Québec comme terminal de conteneurs international. Ça, ça ouvre la voie au projet de l'entreprise QSL dans la baie de Beauport. Ça fait pas juste des heureux, on en reparle. Certification, par contre, qui est attendue depuis plus de 2 ans. Québec est donc maintenant parmi les 5 ports canadiens autorisés à traiter des conteneurs internationaux. Donc, on renforcit le rôle stratégique dans le transport maritime. On dit qu'il reste encore beaucoup de choses à ficeler, mais quand même, cette authentification-là amène énormément et ça nous permet probablement de passer à la phase 2, 3 pour la suite des choses. Et on est aussi en travail, et on nous le disait, hein, avec l'agence frontalière là, pour la sécurité, parce que ça, ça amène quand même des questions.
En effet, puis on a reçu un bon texto à cet effet-là aussi. Hein? Il va y avoir 15 douaniers, puis on va faire face au cartel risible. En effet, c'est une réponse un petit peu lancée en l'air de Joël Lightbound. Mathias Turcotte est avec nous. Il était justement à la conférence de presse pour le projet QSL. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Cool. Mathias, résume-nous. Ça va être quoi les retombées économiques? À quel point c'est gros, ce projet-là?
Ça fait quand même, tu l'as dit, Pascal, ça fait 2 ans, mais qu'on parle d'un port de container à Québec, ça fait plusieurs et plusieurs années. On a eu des projets par le passé, à l'époque de Régis Labeaume, pour un potentiel port à container à Québec qui n'a jamais adonné. Pour ceux qui se demandent où que le port se situerait, c'est juste à côté de la baie de Beauport. Donc forcément, ça va changer le paysage de la baie de Beauport, c'est ça clair. C'est sûr et certain. Mais c'est des grosses retombées économiques pour la ville de Québec. On évalue le projet. Puis là, on n'a pas encore tous les détails du projet, c'est sûr, mais on évalue ce projet-là avec des retombées économiques de 60 à 80 millions de dollars par année, ce qui est
très
énorme.
Gros.
Des centaines d'emplois, ce serait 200 000 containers par année qui passeraient justement par le nouveau port QSL, si jamais le projet QSL va de l'avant. Donc, c'est un projet d'envergure, c'est sûr. Puis du côté du port, on était content. Du côté du gouvernement fédéral, ça faisait quand même quelques semaines qu'on sentait dans l'air que ça s'en venait.
Vraiment.
Maintenant, est-ce que ce projet-là va voir le jour ou pas? Parce que
ça prend une étude environnementale.
Ouais,
on vient d'en parler avec Joël Lightbound. J'ai dit, ben pourquoi c'est pas le fédéral qui s'en occupe? C'est le port qui s'en occupe, mais le port, ben il veut faire de la business. Donc, est-ce qu'il va truquer les choses?
Ben,
on a-tu parlé justement à Olga Farman par rapport à ça?
Oui, forcément, là, parce que maintenant, ça repose entre les mains du sport si le projet va de l'avant ou pas. Avant ça, il faut faire ce qu'on appelle un PEAI, Programme d'évaluation et d'atténuation des impacts en lien avec l'environnement. Donc, c'est le port qui s'occupe de ça. Là, la question puis l'inquiétude que certains ont, c'est de dire le port est pour le projet, puis on se dit ouvertement pour le projet. On veut le projet depuis maintenant plusieurs années. C'est ce même port-là qui s'occupe des études environnementales puis par la suite décide de donner son go ou non au projet. Olga Farman, PDG du Port de Québec, a été questionnée sur ce sujet-là. Elle dit que même en étant favorable, le port sera à l'écoute des citoyens. Je vous laisse entendre.
C'est pas parce qu'on est favorable à un projet que lorsque le projet va arriver, nous sommes parfaitement conscients et nous avons entendu depuis un an les préoccupations des citoyens, notamment en lien avec la qualité de l'air, notamment en lien avec la circulation. Alors, la question que j'ai la responsabilité de poser et de faire une démarche accompagnée par des experts indépendants, notamment auprès de mon partenaire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mitiguer, diminuer et rendre le projet acceptable pour les communautés, mais également pour les paliers de gouvernement.
J'ai bien hâte de voir. C'est sûr que Frédéric Boisvert, ce matin, en entrevue à Marceau le matin, c'est disponible sur blvd.fm, a rassuré les opposants en disant, écoutez, il y a 80 % du transport de marchandises qui va se faire par voie ferroviaire. Donc, ça met moins de camions lourds, ça met moins de pollution, entre guillemets. Mais quand même, je comprends les gens de Limoilou d'être inquiets parce que l'épisode de la poussière rouge est pas très loin dans leur mémoire. Là. Donc, je comprends absolument. Puis le port a fait preuve de laxisme à
puis
ce moment-là.
Puis on sent encore, tu sais, moi, tu le sais, j'y habite, là, on sent encore tout ce qui est automobilisme, ouais, hein. Camion qui passe. Les balcons sont poudreux là, de poussière.
C'est ça.
C'est pas une poussière rouge comme on a vu, mais puis, Limoilou a un problème avec ça.
Oui, puis avec un port comme celui-là, c'est sûr que ça va pas aller en s'améliorant. Je trouve ça intéressant que tu m'en parles du 80% en train.
Oui.
Parce que ça, c'est un objectif, OK?
Mais c'est pas assuré.
Ben, d'un certain sens, on n'a pas encore le projet, donc on peut pas savoir si c'est assuré ou pas. J'ai parlé à Étienne Grandmont par la suite. J'ai pas d'extrait sur ça, mais ce qu'il me disait, qui est député de Taschereau pour Québec solidaire, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'on a un objectif de 80%, mais pour l'instant, les infrastructures ferroviaires sont pas tant développés que ça dans le secteur. Puis si on regarde un secteur comme Montréal, qui a un port à container également, avec des infrastructures plus développées que ce qu'on voit dans le secteur où qu'on va implanter le projet QSL s'il a lieu, ce qu'on voit, c'est que c'est 55 % des trajets qui se font par train restent par camion. Fait que ça nous laisse supposer que ça va probablement être en bas de 80 % par la suite. D'ailleurs, il y a plusieurs demandes des groupes opposants, dont Étienne Grandmont, par rapport au fait que le port est comme tout seul dans l'histoire. C'est à la fois le juge et le parti, ce qui crée certains problèmes. On demande donc chez certains une évaluation de l'Agence d'évaluation Impact du Canada, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui n'est pas interdit. Puis le député de Taschereau, Étienne Grandmont, demande aussi que le port ne soit pas seul dans le processus et que le gouvernement du Québec joue un rôle.
Donc, c'est pour ça qu'on demande que le port ne soit pas le seul juge et parti de l'évaluation environnementale. On demande une vraie évaluation environnementale en bonne et due forme. Puis, il n'y a rien qui empêche le gouvernement du Québec de faire un BAP sur l'extérieur du port. Parce que on vit pas, le port n'est pas sous une cloche de verre. Il y a possibilité d'évaluer les impacts à l'extérieur du territoire du port. Et je pense qu'il y a besoin de le faire. Je pense que ça, c'est la responsabilité du Québec de le faire. Non?
Moi, je suis très d'accord. Je pense que ça prendrait un parti neutre, justement, pour évaluer le tout. Ceci dit, je suis très en faveur du projet QSL parce que c'est des retombées économiques très importantes pour la région de Québec. Et on en parlait la semaine dernière avec Julie White. C'est très dur au niveau économique avec la guerre tarifaire. Donc, moi, je suis pour, justement, qu'on ait ce projet de diversification économique. Ça fait pas de doute dans mon esprit.
Ben, oui, puis avoir des retombées économiques que ça pourrait avoir sur Québec, c'est exceptionnel. Je vous ramène en 2021 pour finir le segment. Oui. Le projet Laurentia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était justement un port à container. Puis à ce moment-là, il y avait eu des études environnementales de la part du gouvernement fédéral. Cette fois-ci, on n'avait pas eu le choix de les faire parce que le port allait empiéter sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui menaçait la biodiversité.
Oui, oui.
Puis ce qui a mis fin au projet, c'est justement que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a donné un avis défavorable à ce projet-là, ce qui a, entre guillemets, forcer la main au fédéral de dire « on recule sur ce projet-là ». Donc, le questionnement est, est-ce que ça pourrait être pertinent de la part du fédéral de dire « pour ce projet-là, même si on n'est pas obligé, on va quand même demander une évaluation de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada ». Peut-être bien.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
L'émission On en jase qui se poursuit, les midi 45. Merci Mathias pour cet excellent topo sur les réactions du projet QSL, un projet important au niveau économique. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il va falloir trouver une belle voie de passage avec les opposants. On va revenir un petit peu avec Alicia Despins sur ce projet tout à l'heure. Je veux vous parler, Pascal et Mathias. Aujourd'hui, dans le Journal de Québec, j'apprenais qu'il y a un documentaire tourné par un réalisateur, Jean-Pierre Roy, qui s'appelle « Génération Trans », qui était prévu pour le 30 avril en projection au cinéma Cartier, qui a été tout simplement annulé en raison de pression faite par les groupes, notamment les groupes LGBTQ+. J'ai bien dit, hein?
Oui.
Colin, que je me pratique. Et quand j'ai vu ça, ma première réaction, ça a été de dire, OK, on devait sûrement pousser un peu trop loin la situation, puis on allait sûrement dans l'extrême. Mais dans l'article, c'est bien expliqué qu'on va pas dans l'extrême du côté de M. Roy. Et ce matin, LCN, il a accordé une entrevue, et je vous laisse entendre qu'est-ce qu'est son documentaire Génération Trans.
Au Québec, ce qui est très particulier, c'est qu'à partir de 14 ans, l'enfant est autonome dans sa décision. Il peut décider lui-même, sans l'approbation des parents, de recevoir des traitements hormonaux. Et dès 16 ans, recevoir des opérations chirurgicales. Donc, pour une jeune fille à 16 ans, tout seul, peut décider de se faire enlever les seins. Et je questionne donc cette liberté décisionnelle à partir de 14 ans. Et c'est le cœur du film.
418-971-1021 pour réagir. Puis je veux vous entendre, Mathias et Pascal, parce que moi, je trouve que la question est légitime de M. Roy de dire, est-ce que à 14 ans, j'ai suffisamment de maturité pour prendre cette décision qui est irréversible. Là. Je décide de changer de sexe. Ben, si à 22 ans, puis là, je vais prendre l'exemple, je suis une femme, j'essaie de devenir un homme, je veux redevenir une femme à 22 ans, puis j'ai eu la mastectomie, ça va être dur, hein, s'il vous plaît. Là.
Mais tu sais, c'est sûr qu'en plus, quand on lit l'article, là, on dit qu'il y a eu plein de représentations sans anicroche du côté de Montréal. On amène ça à Québec pour amener plein de points de vue. C'est une question de société. Et c'est une question hyper importante. Il y a des auditeurs qui nous disaient qu'ils connaissent, bon, entre autres, quelqu'un qui raconte son calvaire. L'autre phase de la transition, c'est la détransition parce qu'elle était dans un mal de vivre, qu'elle a identifié à son genre à ce moment-là, mais que plus tard, c'était pas la même chose. Est-ce qu'il faudrait avoir un âge pour se permettre une transition? Le questionnement est hyper important. Toi, moi, Mathias, peu importe, peut pas y répondre.
Non.
Mais le fait d'avoir une conversation, c'est important. Puis le documentaire, c'est ça qui a mené.
Mais c'est ça. C'est même pas juste une question de est-ce que c'est légitime. Tu l'as dit, c'est important. Puis j'irais même plus loin. Avoir ce questionnement-là, c'est d'intérêt public. Parce qu'à partir du moment où qu'on efface la question puis qu'on dit non, c'est pas un questionnement qu'on peut avoir. Comment on peut légiférer par la suite? Comment qu'on peut décider ce qui est mieux? Comment encadrer tout dans notre société? C'est comme si à l'époque, on reprend l'exemple de l'alcool, c'est pas nécessairement le meilleur exemple, mais que les jeunes adolescents auraient pu boire puis qu'on dit c'est pas légitime de se poser la question en tant que société, est-ce que c'est pertinent ou non? Je veux dire, un adolescent, puis là, je vous ramène à l'adolescence, c'est instable. On a un mauvais contrôle sur nos émotions.
Écoute, t'as les hormones dans le piton, là.
On a une mauvaise vision de nous-mêmes aussi, là.
Bien
sûr.
Je veux
dire, moi, mon adolescence, ça fait pas si longtemps que ça. Puis je considère pas que je me haïssais ou autre, mais je ne me trouvais pas nécessairement beau. Puis je pense qu'on ferait un sondage au sein des adolescents, puis il n'y a pas beaucoup d'adolescents qui sont si à l'aise dans leur corps que ça.
Mais on comprend quand même que des fois, c'est une question d'identité. C'est profond, c'est sérieux.
Oui, exactement.
C'est pour ça qu'amener la conversation,
c'est
important. Oui. Parce qu'il y en a qui en souffrent vraiment, puis qui vont peut-être même procéder à des tentatives de suicide parce qu'ils ne se sentent pas dans le bon corps.
Vraiment, j'ai justement vu des adolescents faire cette transition de genre-là quand je travaillais au Patro Charlebourg, puis j'ai vu des bénéfices chez les personnes. Donc, je suis loin d'être contre, justement, la transition de genre. C'est juste que je me pose la question si à 14 ans, c'est vraiment le bon âge. Moi, personnellement, je montrais ça peut-être à 16 ans parce que, si je me trompe pas, c'est à 16 ans l'âge de consentement pour une relation sexuelle. Fait que je trouve qu'on a comme différentes périodes d'âge. Tu parlais de l'alcool, 18 ans, le consentement sexuel, 16 ans, la transition de genre, 14 ans. Y a-tu moyen de trouver un équilibre pour qu'on se dise, OK, à un âge où ton cerveau est rendu à maturité, que ça soit 16 ou 18 ans, ça sera là que tu pourras prendre les décisions d'alcool, de consentement
sexuel,
de transition.
Puis on peut-tu les accompagner quand même? Juste pour, au moment où ça vient, une conversation sur la table, on peut-tu leur donner l'importance que ça a si jamais l'enfant en parle? Puis d'avoir un développement au niveau de la mise en santé, puis de ce qu'on a en santé pour, on va avoir des rencontres et tout ça, puis on va se diriger vers l'âge où, pour les faire sentir légitimes, tu sais. Dans leur décision ou dans leur impression.
J'aime ce que t'amènes.
Si ça change au cours du processus, ça changera. Mais si on met un âge, par exemple, tu sais, est-ce qu'on est qualifié pour en parler? Jamais autant que ceux qui sont là-dedans.
Non.
Mais si on met un âge, est-ce qu'on va aussi aider à prendre une décision éclaircie puis qu'on les accompagne jusqu'à la fin?
Ben c'est ça. Pour mettre cet encadrement-là, ben il faut se poser la question initiale de c'est quoi le processus qu'on veut suivre pour pouvoir bien encadrer. Puis ce que je trouve désolant là-dedans, c'est qu'on parle pas d'un film conspirationniste ou de militantisme. Là, on parle d'un documentaire, un professionnel qui a créé de quoi, qui répond à un questionnement tout à fait légitime et même, je reviens avec l'intérêt public, quelqu'un qui a bâti quelque chose de concret, quelque chose de crédible pour le présenter. Puis au lieu, ces personnes-là auraient pu très bien se présenter aux séances, écouter son documentaire, se faire leur propre tête par la suite. Au lieu de ça, on cherche encore à canceller, on cherche encore à dire c'est inacceptable d'avoir des discours comme ça en société. Comment on peut avancer en société, comment on peut avancer ensemble si quand des personnes crédibles qui construisent des documentaires crédibles avec des preuves, des études et tout, bon, on les empêche de diffuser ça.
Exactement.
C'est inacceptable.
Je suis très d'accord. Faut avoir justement cette capacité-là à prendre les points de vue autres et en société à avoir justement ce désir et cette volonté-là de débattre et de comprendre ce que l'autre pense. Je vais donner l'exemple, Pascal, la conférence à l'Université Laval que les féministes avaient tenté d'annuler avec Étienne-Alexandre Beauregard, Alexandre Boissonneau.
Comment veux-tu? Puis même, des fois, je me pose la question parce que là, le cinéma Cartier a reçu des menaces.
Oui.
Puis c'est pour ça qu'on a dit, on va annuler la projection du film. On va pas plus loin avec ça. Des menaces. Je reviens à ces affaires-là. Quand toi, tu as un débat d'idées, là, le mieux qui peut t'arriver, c'est avoir quelqu'un devant toi qui te challenge sur ton débat d'idées. Un, tu vas pouvoir renforcer peut-être tes idéaux. Deux, tu vas pouvoir peut-être les améliorer, être plus fluide, puis être plus conséquent dans tes discours par la suite. Dans une société où on donne juste une possibilité d'être dans une chambre d'écho, ça mène absolument à rien et ça ne se développe pas de façon saine.
Mais tu vois, juste le fait d'en parler en onde, on reçoit des textos, puis on a différentes opinions. Certains qui disent, même 16 ans, je trouve ça trop jeune.
Ouais.
Certains qui disent, peu importe l'âge, en autant que l'accompagnement soit là. Ça, c'est des textos qu'on reçoit, mais c'est des textos qu'on reçoit parce qu'on se permet d'avoir cette discussion-là.
Exactement.
On se permet d'avoir le questionnement.
T'as entièrement raison. Et d'ailleurs, vous avez été énormément à réagir par texto, puis on est pas mal tous dans le... Je vais le dire comme ça, dans la même équipe sur ce discours-là, à l'effet que c'est une décision importante, 14 ans, on trouve ça tôt, et ça prend un suivi de professionnel. Et là, à l'heure actuelle, pour la transition de genre, à 14 ans, tu peux ne même pas en parler à tes parents, aller voir un médecin et commencer le processus. Chez nos auditeurs, chez nous ici à Boulevard 102.1, ça résonne comme quelque chose qui est fait très tôt. Merci Pascal et Mathias, c'est une super belle discussion, j'adore. Merci aux auditeurs d'avoir participé. Après cette courte pause à Boulevard 102.1, Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin de Desmaures, vient s'installer. Pascal, tu pourrais parler de ton nid de poule sur les trières.
J'en ai trouvé d'autres à Saint-Augustin.
Non, puis là, il va venir nous parler que lui, là, le ménage du printemps, il est commencé depuis 2 semaines. Fait que là, moi, je veux savoir comment il fait, le maire Junot. À Québec, on n'est pas capable. Mais à Saint-Og, on nettoie, puis même pendant la nuit.
On en jase jusqu'à 14.
Ah, ça crée des belles discussions hors d'onde que ce sujet sur ce documentaire Génération Trans qui a été annulé au cinéma Cartier. Ça nous permet justement de parler de l'adolescence. Ça nous permet de parler de plein d'autres... sujet tabou comme l'homosexualité.
Avec des messages clés.
Exactement.
Je pensais jamais parler de ça avec le maire Junot, honnêtement.
Non, moi non plus. Je pensais pas parler de ça avec le maire Junot, mais sa femme est psychologue.
Oui, fait qu'on s'est mis à jaser de plein de choses, puis on parlait de nos propres parcours. Tu sais, toi, Jeff, il y a des émissions qui ont permis à tes jeunes, à tes gars, de voir un peu que le parcours homosexuel existe. Fait que si ça venait qu'à être ça leur vie, il n'y avait aucun problème.
Zéro
moi, c'était un
problème.
Commentaire lâché à va-vite de mon père. On est 3 filles. Mm-hmm. puis vraiment sorti de nulle part, juste pour faire, hey, en passant, ouais. Si jamais un jour, c'était comme vous êtes trois filles, selon les stats, ça se peut, si jamais, pas de problème, là.
C'est ça.
Mais ça nous était resté en tête.
Ben oui.
Ben là, clairement, c'est pas notre cas, mais si ça avait été notre cas, on se serait senti bien.
Je félicite, moi, la mère des enfants qui leur disait toujours, plus tard, t'amèneras ta copine ou ton copain, tu vas être le bienvenu à la maison.
En amont.
En
juste
amont.
Pour. Ouais.
Bravo. Bravo, Cynthia, t'as fait un travail impeccable. On a le maire de Saint-Augustin, Pascal, avec nous, Sylvain Junot. Il commence à prendre un abonnement avec nous.
Ben, es-tu rendu chroniqueur, je suis au courant?
Ben, je sais pas, là. C'est parce que, tu sais, il réagit.
C'est parce que je l'agace trop sur les nids de poule à Saint-Aug.
Peut-être.
Le. Dites-le, hein.
Ouais, c'est ça.
J'en ai trouvé d'autres.
Ouais, parle-y, tu commences avec ça. Parle-y des nids de poule que t'as trouvé,
si vous
là.
Me permettez deux secondes, ben juste oui. Avant. Les propriétaires du cinéma, là,
ouais.
Qui ont décidé de
oui,
pas
oui.
Présenter.
Parce cinéma quartier,
menacés.
Ouais.
C'est pas de mes maudites affaires, évidemment, là. Mais les menaces, là, il y a de la police pour ça, puis présentez-le, le film. Mmh.
En effet.
J'ai fini.
Vous avez raison. J'aime ça. Il y a une opinion sur tout le Marginot, je l'adore. Vas-y, commence avec tes nids de poule, Pascal, là.
Ben là, vous m'aviez dit qu'il y en avait juste un, puis on a niaisé là-dessus, puis je vous ai dit, il y en a plus qu'un, monsieur Junot, il y en a plus qu'un. Mais étrangement, après la chronique, parce que je vais appeler ça chronique, la semaine passée, je remonte vers Saint-Augustin et il y a la voirie, c'est tout ça, sa voirie qui oui. Est bon palier à tout cela, qui est en train de remplir un nid de poule à Saint-Augustin. Bon, il y en a d'autres, surtout quand on se dirige vers Cap-Rouge ou encore le SSF et tout ça. Mais c'est vraiment un enjeu complexe, ça, les nids de poule dans une municipalité, tiens.
Ben, complexe, non. C'est une question de priorité. Plus on s'occupe de nos chaussées, moins il y en a. Pas de s'occuper des nids de poule, de s'occuper des chaussées, c'est-à-dire de retravailler nos chaussées, les remettre à niveau, puis faire des réfections. Mais les nids de poule, bien évidemment, il y en a au printemps. Mieux sont nos chaussées, moins il y en a, mais il en reste tout le temps. Et ben, c'est de s'en occuper, point. Il y a pas de... C'est pas compliqué. C'est pas la meilleure des solutions parce que remplir
faudrait
les
refaire
poules,
la
c'est
route.
Temporaire, c'est ouais. Ça. Fait qu'il faut refaire, mais on refait, puis c'est tout. Là, mm-hmm. L'important, c'est que ça prenne pas 2, 3, 4 jours puis que les voitures se brisent là-dedans. Ouais. Là, et faut juste agir, puis voilà.
Là, je vous ai invité parce que hier, mon collègue Mathias est allé à une conférence de presse de la Ville de Québec qui a expliqué qu'on n'a pas pu commencer le ménage du printemps. L'hiver s'est allongé. Fait que là, on est en retard, puis on va commencer avec les pistes cyclables. Fait que j'ai dit, tiens, je vais texter mon maire préféré pour lui demander, avez-vous commencé ça, le ménage du printemps? Là, vous m'avez envoyé plein de photos. Vous avez commencé. Il y a même du nettoyage de nuit qui se fait. Coudonc, c'est pas en même température à Saint-Augustin-de-Desmaures?
Bon, écoutez, moi, vous comprendrez, je gouverne ma ville, puis je vais m'imiter à ça, je commenterai pas ce qu'ils font ailleurs. Ça veut pas dire que je pense pas, là.
Mm-hmm.
Mais chez nous, c'est commencé, tantôt je vous entendais dire depuis 2 semaines, ça fait plus que ça, c'est commencé depuis fin mars, en sens que une niveleuse, un gradeur en bon québécois, là, on passe ça, nous, dès fin mars, pour déglacer les bords de rue. Pour toutes sortes de raisons, notamment pour que l'eau, quand on a de la pluie abondante au printemps, l'eau puisse circuler vers les bouches d'égout. Mais c'est aussi pour pouvoir commencer le nettoyage plus tôt.
Parfait.
Parce qu'il y a de la glace, évidemment, là, on ne peut pas faire grand-chose.
Fait que vous autres, là, la glace, vous vous dites, hey, écoute, on n'attend pas qu'à fondre, on te l'enlève de l'eau plus sacrée.
Oui, puis ça nous permet, en nettoyant le plus vite possible, d'éviter que les feuilles puis toutes les cochonneries qu'il y a dans la rue se ramassent dans, mm-hmm. dans le puisard de pluvial, l'engorge, le bouche, etc. Donc, dès le début avril, ça commence. On fait plus qu'une passe partout. Là. Fait qu'il y a une première passe, le rough, excusez l'anglicisme encore.
Mais non, allez-y.
Et etc. Donc, on a une passe de fait partout, même les trucs ruraux. Là. Et la deuxième est en route. Puis, il y en aura une autre encore. Puis, on sait que les citoyens vont nettoyer leur terrain. Puis, il y en a qui râlent fort, là, disons. Puis, ça revole dans la rue.
Puis, les pitchers dans la rue ne sont pas tous comme moi ou Yannick Marceau ou nous autres, on ramasse notre petit tas de cailloux pour pas laisser ça dans la rue. Il y en a qui laissent ça.
Mais quoi qu'il en soit, nous autres, je vais le dire comme je le pense, se torcher, c'est une priorité absolue. Comme c'est un service de base.
Ça fait partie de vos priorités.
Et ce que ça fait en sorte, c'est que ça permet aussi de procéder au lignage plus tôt. Ce qui nous ralentit, là, c'est vrai, l'aspect météo, à savoir... Si
ça prend 10 degrés, hein?
Faut qu'il fasse une dizaine de degrés, que le taux d'humidité pas trop élevé pour que ça sèche, là, évidemment, puis que ça durcisse. Mais ça permet quand même de commencer ça. Parce que l'igné au mois de septembre, là, c'est ça, puis rien, c'est pareil. Là, ça sert à rien.
Non, c'est ça.
C'est des questions d'esthétisme et aussi de sécurité. Autant la peinture, les traverses piétonnes,
ben oui,
tout ce que vous voudrez, que le gravier sur les chaussées, que ce soit sur une piste cyclable ou en bordure de route, un vélo dans la garnotte, c'est pas l'idéal.
Ah, un scooter aussi, c'est une bonne débarque.
Les trottoirs, tout ce que vous voudrez. Donc, non, chez nous, c'est juste de prévoir puis de prioriser. Vous savez ce qui se passe actuellement dans nos garages là, à Saint-Augustin-les-Morts? Ouais. Savez-vous ce qu'on fait dans la mécanique là, à partir de la semaine prochaine?
Allez-y donc.
On prépare les équipements d'hiver.
Déjà?
Ben oui, on a des souffleurs. Là, un souffleur, ça vaut 200, 300, 400 000 $. C'est des monstres avec des moteurs à eux tout seul, la chargeuse. Il faut tout mettre ça en ordre. On en a plusieurs. Puis,
avant le remisage?
Des chenillettes. Pas remisage, mise en ordre, puis changement d'huile, tout ce que vous voudrez pour être prêt...
Pour être prêt l'hiver prochain. Pour être prêt pour la première neige.
C'est ça. Et c'est la même chose pour l'équipement d'été, que ce soit les balais de rue. Les balais de rue, là, par définition, là, ça scrape tout le temps.
OK.
C'est normal. C'est un sandblast. Excusez, encore, je parle tout le temps.
Mais non, allez-y, de toute façon, on a plein de monde qui parle de ces termes-là en fin de semaine à la maison. Là.
Le sabre rentre là-dedans, là, ça siphonne. Là. C'est un balai, c'est un aspirateur, finalement. Donc, ça se fait... comment on dit ça en français, un sandblast? Ça se fait... je sais pas, là, je m'en souviens plus, bref. Mais donc, ça se fait démolir. Puis ça siphonne, hein? L'interbloc peut lever là-dedans. Là. Fait que c'est toujours en train d'être réparé. Donc, on les met en ordre tant qu'on peut. On va aussi en sous-traitance. On loue des balais. On en a à nous pour être capable d'opérer tout le temps. Mais on en loue aussi pour les périodes de pointe. Et du balai de rue, on fait ça au printemps, c'est ainsi. Mais on en fait aussi à l'automne. Quand les feuilles tombent, nous autres, on ramasse. Ça évite de boucher partout.
En effet.
Comme ça, on n'a pas trop de problèmes d'inondation. Et
c'est vraiment bon. Le nettoyage de nuit, c'est quoi? Vos cols bleus acceptent de travailler de nuit?
Ben là, quand on dit nuit, là, ils travaillent sur des quarts de travail. Quand on est dans les opérations de déneigement sérieuses, là, c'est-à-dire il neige puis il y a une tempête,
là, ils travaillent
là,
de nuit.
Là, c'est jour et nuit. Ben, jour et nuit sur trois chiffres de 8 heures. Là, actuellement, je ne suis pas exactement au courant, mais je pense qu'on est sur deux chiffres, c'est-à-dire jour et soir tard. Fait que quand on dit nuit, peut-être que c'est jusqu'à minuit, une heure. Il fait noir. Et oui, il y a du nettoyage qui se fait, là, peu importe l'heure. Là. Évidemment, on essaie de pas faire du balai de rue en pleine nuit avec le bruit
mais
ça
non,
peut
c'est
faire,
clair.
Etc. Mais de l'arrosoir pour nettoyer et autres, là, ça se fait
facilement. Parfait. La dernière fois qu'on s'est parlé, on s'était parlé de la problématique des arbres avec le projet de tramway, les arbres sur René Lévesque. Là, Joël Lightbound, tout à l'heure en entrevue, nous a laissé entendre que le financement, il va avoir une bonne proportion qui va débloquer d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Vous êtes où encore avec les arbres sur René Lévesque? Êtes-vous dans le camp de Stéphane Lachance qui dit « Ah, j'ai lancé la serviette, j'ai tout essayé » ou vous continuez de vous battre?
Ben me battre, oui. En fait, on a pris même une résolution cette semaine à la ville de Saint-Augustin-des-Morts pour demander à diverses autorités compétentes si les autorisations ont été demandées, etc. Autant au niveau, disons, environnemental, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle la faune, l'environnement, etc., même niveau Canada, etc., mais aussi aux instances compétentes en matière économique, c'est-à-dire le Conseil du Trésor ou autre, parce que dans les règles du gouvernement, il a été dicté là, clairement qu'on ne commence pas un projet tant que le financement n'est pas attaché. Nous, là, les villes, quand on reçoit une subvention du gouvernement, quelle qu'elle soit, si on dépense une scène avant d'avoir signé le protocole puis tout ça, là, on n'est plus admissible, ça ne marche plus.
Je sais, j'ai vécu la même chose dans les organismes à but non lucratif.
Ça fait qu'il y a, là, il y a une incohérence. Là, fait que là, on se dit, bon, puis la gouvernance de ce projet-là, du tramway, est éparse, là, pour dire le moins. Il y en a toutes les bords, puis ça change, puis on ne sait plus.
Bien, on l'a vu, tu sais, conférence de presse de CDPQ Infra qui dit une chose. Ouais. Après ça, la ville dit autre chose, parce que, tu sais, on pensait que René Lévesque serait fermé à partir du 21 mars, il va juste être fermé à la fin de l'été. Mais on a déjà déplacé parcours d'autobus.
C'est très important de s'assurer que les autorisations puis que les choses se font fond comme il faut, puis que la séquence des décisions est bonne. Mm-hmm. Donc, on a pris une réseau où on demande à chaque autorité compétente, comme je disais, mais avec un titre, un poste, là, puis on demande qu'ils nous répondent en signant, là, tu sais, pas en l'air, parce que c'est important pour nous. Et je répète encore, là, c'est pas d'être pour ou contre le projet. Là.
Non, ça, on l'a bien compris.
Ni celui-là, ni un autre, d'ailleurs, là, mais de vraiment faire les choses dans l'ordre, là, de faire les choses... Prendre la bonne séquence de décision. La gestion de projet, c'est une évidence, là. Puis je l'ai dit publiquement la semaine passée ou cette semaine, je ne sais plus. On donne des formations en éthique aux élus, tous les nouveaux élus, à tous les paliers, puis je suis totalement d'accord avec ça. Il devrait y avoir aussi des formations obligatoires en gestion de projet de base.
Bien, en effet, hein, parce que...
Monter un budget, lire un budget... Ça a l'air évident, ce que je dis là, mais ça ne semble pas être le cas. On le voit.
En effet, je suis très d'accord avec vous. En terminant, est-ce que vous réclamez une rencontre, ne serait-ce qu'avec le ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, ou Christine Fréchette, à cet effet? Voulez-vous avoir une rencontre un à un pour donner votre point de vue?
Non, moi, au niveau politique, là, moi, je m'adresse aux citoyens. C'est ce qui me préoccupe. Là, et... après ça, ben, on fait les démarches, comme je vous ai dit, avec les autorités compétentes au niveau administratif et autres. Le politique, je veux dire, je pense qu'il lise et écoute les médias comme tout le monde, puis ils m'entendent. Ils doivent m'entendre ce midi. Là. S'ils ne m'entendent pas, ils vont l'écouter le podcast.
C'est
puis,
ça.
Et bon, s'ils veulent me contacter, ça me fera plaisir de leur parler. Mais je veux dire, je pense l'avoir assez dit haut et fort qu'il n'y a rien de plus à leur apprendre. Là. C'est à eux à prendre leurs décisions, leurs responsabilités et de prioriser puis de faire les choses dans le bon ordre.
Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, merci pour votre passage en studio. En passant, on a PO qui dit « Félicitations au maire, je travaille à Saint-Augustin. C'est vrai que c'est pas mal plus propre là-bas que dans mon quartier à Beauport. » Et David, qui habite maintenant les Molos, qui dit « Et j'ai passé ma jeunesse à Saint-Aug. M'ennuie de la propreté de mes rues. » Mais bravo, bel job, félicitations. Hey, on a appris qu'on pouvait casser la glace.
Avant.
Ouais, on pouvait casser la glace avant.
Avant, pour ensuite
imagine,
être capable de nettoyer.
On a nettoyer. Ben, on a appris ça.
Ouais.
Un grandeur, hein? On va vérifier ça si
pas
on s'en
met. Pas grandeur,
grédeur.
Ça, c'est en anglais. C'est une niveleuse
bon,
en français.
Une niveleuse. On va vérifier, Pascal, si on a une niveleuse à la Ville de Québec. Puis quelqu'un qui pourrait nous renseigner là-dessus, c'est Alicia Despins, qui va s'en venir dans quelques instants en onde avec nous. Mais avant...
Elle pourrait aussi confirmer un commentaire qu'on vient d'avoir. Pour être en politique municipale, pour avoir été en politique municipale depuis 4 ans, je confirme qu'une formation de budget de projet serait très bien.
Oui, hein?
C'est loin d'être privilégié tant que ça.
Ouais, puis c'est ces gens-là qui gèrent après ça notre portefeuille.
À coups de milliards.
Ouais, vous l'avez bien dit. Courte pause, Alicia Despins avec nous pour sa chronique municipale et un bloc de nouvelles avec Pascal CV.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En avril, obtenez le Maverick 2026 XLT hybride en location 60 mois à 99 $ par semaine et le F-150 STX 2026 à 119 $ par semaine en location 36 mois. Pour les meilleures offres, passez-nous voir chez Desjardins Autocollection.
Matelas Dauphin prolonge sa super vente d'entrepôt jusqu'à dimanche 17h dans tous ses magasins. C'est l'occasion de vous offrir un matelas Dauphin au prix le plus bas de l'année. Exemple, obtenez 50% de rabais et plus sur tous les formats de matelas Infinité ultra confortables, dont le format grand en super spécial à 599 $. Beaucoup, beaucoup d'autres spéciaux exceptionnels sur place. Jusqu'à dimanche 17h, c'est la super vente d'entrepôt Matelas Dauphin.
Pierre, tant qu'à rénover, on met-tu des thermostats intelligents?
Ben non, notre budget est trop serré.
Mais ils sont 0 $ puis l'installation est gratuite.
Ah ben oui, on fait ça.
En ce moment, Hydro-Québec offre les thermostats intelligents à 0 $ et l'installation gratuite. Achat en ligne, détail à hydroquebec.com.
Patio ou piscine en vue? Déco-Rampe, spécialiste en garde-corps vert et aluminium, vous offre rapidement une fabrication québécoise sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Rendez-vous sur déco-rampe.com ou visitez-nous à Québec, Lévis ou Saint-Apollinaire.
Construction Paradis Leclerc recrute. Tu es charpentier-menuisier, apprenti ou compagnon et tu cherches du changement? On t'offre des projets variés en résidentiel et commercial, de la charpente à la finition et au revêtement. On cherche des gens fiables, efficaces et fiers de leur travail pour joindre une équipe solide avec une excellente ambiance. Temps plein, 40 heures, CCQ résidentiel et commercial avec possibilité d'avancement. On recherche aussi un technicien ou une technicienne comptable pour nos entreprises liées à la construction. Postulez dès maintenant. Construction Paradis Leclerc vient bâtir avec une équipe qui a de l'ambition.
C'est l'événement 5 jours Lexus chez Boulevard Lexus. Obtenez le RZ 350 E signature 2026, location 24 mois avec acompte à à 788 $ par mois et le NX 350 Premium 2026 location 24 mois avec acompte à 638 $ par mois.
La météo présentée par Bouffe et Compagnie. Le beau temps revient, laissez tomber la cuisine. Solution familiale simple.
Jamais mettre de gants blancs. Ah, je pense que ça va être... je pense que c'est la thématique Sylvain Junot, ça. Maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ça sera disponible sur le blvd.fm en réécoute. Sylvain Junot qui est venu nous expliquer comment lui était capable de commencer le ménage du printemps, Pascal, même s'il y avait encore un peu de neige puis que l'hiver s'éternisait. Une niveleuse qui casse la glace. Hein? Gadon ça, on a ça à Saint-Augustin. Peut-être qu'on devrait avoir ça à Québec aussi pour le faire. Chose certaine, la neige, là, il n'en restera plus sous vos terrains parce qu'aujourd'hui, c'est 9 degrés, généralement nuageux. Mais 11 degrés, alternance de soleil et nuages pour samedi. 14 degrés ensoleillés pour dimanche. Puis si on regarde à plus long terme, c'est du 17 degrés pour lundi et mardi. Fait qu'oubliez ça, c'est terminé. On est au printemps. 418-971-1021. Vous pouvez nous texter à savoir c'est quoi vos plans pour le week-end. Moi, je te rappelle, Pascal Cévic, c'est mon premier show d'humour ce soir. Le gang show!
Allez-y en grand nombre voir Jeff, ah, honnêtement. Je pense que ça va être une super belle soirée.
Je me suis préparé, je rentre dans mes
Es-tu
temps.
Es-tu un peu stressé malgré tout?
Là, présentement, non.
Parce que t'animes, tu t'en rends pas compte.
Exactement.
Mais à 14 heures.
Je vais aller faire une sieste, je serai pas stressé.
Tu penses que tu vas dormir?
Oui, quand okay. Je vais me lever de ma sieste. Oh my God, que là, la chienne va me pogner. Et quand je vais rentrer dans la loge à 7 heures, d'après moi, je vais trembler.
Ouais, ouais. Dans la loge, quand même.
Ben oui, hey. T'es dans la loge, à la salle de Berrousseau,
compté de 19
heures, pas rien là du tout. Donc, c'est ça, mais tu sais, je me dis, il peut rien arriver de grave, parce que si je suis pas drôle, les humoristes vont être drôles à mes dépens, puis si je suis drôle, ben je réussis quelque chose que je pensais jamais réussir.
Absolument.
C'est-à-dire faire rire une salle Albert Rousseau.
T'es un bon scripteur, Nathan était derrière toi.
Oui, Nathan Meilleur était derrière moi.
Il est encore derrière toi. Ah, moi, je te trouve très courageux, je suis fier de toi.
Merci, puis il va être là, Nathan, aussi ce soir pour faire un numéro, fait qu'on va, on va serrer coude à coude.
OK, lui aussi, il fait le gang show.
Oui, lui aussi, il fait le gang show. Oh, mais lui, c'est un habitué.
Ah, il va souvent?
Ouais, ça doit être la troisième ou quatrième fois qu'il
fait. Ah, pour vrai, j'ignorais ça.
Ouais, moi, c'est la première.
Pareil que c'est pas belle fun, fait que j'ai bien hâte de voir
ça. J'ai hâte au bout, je t'en parle lundi. BLVD 101 aussi, c'est l'application pour nous suivre. Évidemment, abonnez-vous à notre page YouTube. Les meilleurs moments s'y retrouvent. On peut peut-être mettre mon gang show, là.
J'aimerais ça.
Pascal, avant qu'on parle à Alicia Despins, justement, de Projet QSL, Ménage de printemps, Garage Newton, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ben, c'est sûr que je te parle quand même du projet du terminal de conteneurs pour le port de Québec, parce qu'on a reçu Joël Lightbound en début d'émission. On parlait que c'est un projet qui promet un processus rigoureux. Donc, gouvernement fédéral qui a officiellement désigné le port de Québec comme terminal de conteneurs international. On ouvre la voie au projet de l'entreprise QSL, c'est pour ça que tu en parles aussi. Ça, c'est dans la baie de Beauport. Avec la certification, ça, c'est attendu depuis plus de 2 ans. Là, on peut enfin déposer formellement le projet auprès de l'administration portuaire de Québec. Et ça fait de Québec un des 5 ports canadiens autorisés à traiter des conteneurs internationaux. Donc, ça renforcit un rôle stratégique, assurément, dans le transport maritime. C'est pas tout le monde qui en est content. On a des gens qui observent une demande au niveau de l'environnement. On veut pas que ce soit géré par le port lui-même. On veut que ce soit fait, entre autres, avec intervention du Bureau d'audience publique sur l'environnement et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Ça, ce sont les groupes opposés au projet de terminal de conteneurs de QSL qui demandent à ce que cette évaluation-là soit faite un peu à l'écart de ceux qui y travailleront. Alors, on est pas mal là-dedans au moment où l'on se parle. Je vais te parler également de Christine Fréchette qui s'en va du côté de Washington. Donc, elle va être aux États-Unis lundi prochain pour rencontrer des élus américains puis des gens d'affaires. Bien sûr, c'est dans cette mission économique et de relations qu'on s'en va défendre les intérêts du Québec en vue de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Madame Fréchette va rencontrer aussi des représentants de l'industrie de l'aluminium et des constructeurs d'habitation. On s'entend deux secteurs d'activité extrêmement important au Québec. Toujours pas beaucoup de nouvelles sur le jeune de 16 ans qui a été atteint par balle et qui s'est présenté la nuit dernière à l'hôpital L'Enfant-Jésus. Les autorités ont été averties autour de 5h15, puis les circonstances sont encore nébuleuses. Il y a une enquête qui est en cours. On a même érigé un secteur pour protéger les traces de sang qui avaient été laissées par la victime sur la chaussée. Il y a d'importantes blessures, mais la vie de l'adolescent, elle n'est pas en danger. C'est la bonne nouvelle. Encore tôt pour donner plus d'informations, savoir c'est relié à quoi, mais c'est sûr qu'on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Les membres de la Fédération des médecins spécialistes, ça a été accepté, hein, l'entente de principe avec le gouvernement du Québec dans une proportion de 86 %. Le départ de François Legault aurait permis la conclusion de l'entente, et c'est selon le docteur Vincent Liva de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Voyez-y ce que vous voulez y voir. Et dans les dernières minutes, ce qui est sorti, Jeff, c'est particulier. Je me souvenais pas du tout de cette histoire-là. Mais un cocktail Molotov qui avait été lancé au hasard dans la fenêtre d'un appartement à Lévis, ça te dit-tu quelque chose?
Ouais, mais ça remonte à loin, me semble, pas
2022.
Et encore plus loin, je pensais.
J'avais complètement oublié ça. Homme de Lévis qui a été reconnu coupable d'incendie qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Moi, je te dirais que c'est quand même beaucoup de conséquences dramatiques quand même, là. Au hasard, c'est deux cocktails Molotov qui ont été lancés dans une chambre où dormaient deux enfants. Et une jeune fille de 3 ans a été brûlée sévèrement. C'est assez dramatique, je trouve. Jason Potier Martin, c'est lui qui a été reconnu coupable d'avoir lancé les cocktails Molotov qui ont atterri dans la chambre. Il a nié pendant longtemps avoir ravagé cet appartement-là de Lévis. Mais là, on a pas mal d'informations qui pointaient vers lui. Entre autres, l'achat des deux bouteilles de limonade qui étaient les mêmes que celles retrouvées dans la chambre en pleine soirée, le fait qu'il y avait de l'essence sur ses vêtements et le fait qu'il a été intercepté un peu rôdeur dans le coin de l'appartement. Puis c'est le beau-père des enfants qui l'avait vu en journée puis qui comprenait pas trop qu'est-ce qu'il faisait là dans le secteur du vieux Lauzon. Mais bon, alors on attend encore des informations à savoir combien de temps on va lui donner. C'est une lourde peine qui est envisagée, mais il faut savoir qu'il est détenu depuis 2022. Fait que souvent, ça va réduire un peu les peines parce qu'on a fait de la détention préventive.
Oui, en effet, ce qui va être très, très, très dommage parce que c'est un événement très particulier. Là, une jeune fille de 3 ans qui s'est fait brûler.
Même au 3e degré sur son pied, la mère qui est sortie, criait « La petite est en feu ». Imagines-tu la scène où tu penses que c'est paisible, là? Une soirée, t'entends « Pac, la fenêtre éclatée ». Cocktail Molotov. Qui n'a aucun lien. Ben, le gars, c'est juste une décision par rapport dans sa tête.
C'est ça, t'es une famille tranquille, paf, il t'arrive ça. Ouf, t'as pas gagné à la loterie hein, quand
ça
t'arrive.
Non, vraiment
pas. Que non. On va rejoindre immédiatement notre chroniqueuse en politique provinciale, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Hey, ça va bien. Tantôt, tu me posais la question, y a-t-il des niveleuses à la ville de Québec? Puis j'ai regardé sur Google, puis je suis tombée sur un « il y en a ». En tout cas, il y en avait en date de 2010 dans un article du Journal de Québec qui faisait état d'un accident où il y a une niveleuse qui avait, de la Ville de Québec qui avait percuté une résidence. Alors que tu as ta réponse, ça existe.
On va envoyer notre Mathias Pascal qui est sur le terrain aller inspecter les garages de la Ville de Québec. Est-ce qu'on a encore des niveleuses?
Après l'accident, on a-tu pris la décision de plus en avoir?
Oui, c'est ça.
Parce que si on a encore des niveleuses, ça veut dire qu'on peut casser la glace. Si on peut casser la glace, ça veut dire qu'on aurait pu commencer le ménage du printemps comme à Saint-Augustin-de-Desmaures. Hey, parlant de Saint-Augustin-de-Desmaures, Alicia, comment tu le trouves, le maire Junot? Je sais que tu as écouté l'entrevue. Moi, je le trouve toujours fin renard. Il est sa fine ligne, la fine ligne entre critiquer vraiment l'administration Marchand et parler de ses réussites à lui.
Tu le sens que c'est très stratégique, là. Oui, il sait où il s'en va, il montre juste assez de ses cartes, là, des cartes qu'il y a dans son jeu, il s'avance sur des affaires, il va jamais trop loin. Moi, je trouve ça quand même super intéressant, ce positionnement-là. Moi, dans le cadre de mes recherches, j'étudie notamment comment les villes se positionnent dans un contexte où elles se retrouvent de plus en plus en compétition l'une contre l'autre parce que, comment tu fais ton argent? Être une ville, c'est des taxes foncières. Il faut que tu attires des gens sur ton territoire, des entreprises, etc. Je trouve ça super intéressant comment le maire Junot se positionne lui, positionne sa ville. Parce que, de par la proximité, Saint-Augustin est en compétition directe avec la Ville de Québec. Puis peut-être qu'elle ne peut pas offrir une vie nocturne, dynamique, plein de festivals, mais au moins, elle peut insister sur d'autres éléments qui sont recherchés par les gens. Puis je pense que ça, Sylvain Junot, il le compte.
Bien, t'as raison, parce qu'à chaque fois qu'il vient en onde avec nous, il y a des gens qui nous textent au 418-971-101. Hey, ça y est, je pense que je vais aller déménager à Saint-Augustin. Donc, il attire justement ce type de clientèle-là, jeune famille, qui recherche de quoi de paisible, propre, des parcs à proximité. Il met vraiment, je trouve, le doigt sur le bon bouton.
Vraiment. Puis, tu sais, il se présente, lui, comme étant un maire efficace. Il présente sa ville comme étant une ville qui s'occupe rigoureusement de ses responsabilités de base, comme l'entretien des rues. Moi, tu sais, si jamais il se lançait dans un une marque territoriale ou autre chose, ou un reviser le slogan. Je ne sais pas c'est quoi le slogan actuellement, mais j'imagine très bien quelque chose du genre vos taxes à l'œuvre, tu sais, le slogan de la ville, une ville propre sans flafla, quelque chose du genre là. Puis bon, ouverture vers des ambitions provinciales un peu peut-être aussi.
Oui, il nous l'a dit ça, il est souverainiste, pas là, mais il garde la porte ouverte, on comprend.
D'un côté, tu sais, il continue de parler à ses citoyens, mais de plus en plus, tu constates qu'il essaie d'élargir un peu là, son bassin, là, son auditoire.
En effet. Grosse annonce aujourd'hui au Port de Québec, projet QSL, le gouvernement fédéral a donné son sceau d'approbation, c'est-à-dire que le port va pouvoir justement accueillir une douane en bonne et due forme, donc être en règle pour accueillir davantage de conteneurs, c'est 200 000 par année. Je te fais entendre ce que Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, a dit sur nos ondes ce matin dans Marceau le matin.
J'ai un petit message pour tous ceux et celles. Puis c'est correct dans la vie, mais je vous le dis, là, c'est que le port de Québec, ça a été le début de la ville de Québec. C'est le début de notre enrichissement collectif. Puis si le port de Québec va pas bien, ou se développe pas, ou se modernise pas, là, on va tout en payer le prix au niveau économique.
Je suis très d'accord. Ouais. Au niveau économique, ça nous prend ça. Par contre, j'ai pas le choix d'avoir des doutes que ce soit le port de Québec qui s'occupe des études environnementales avec les événements, l'historique que le port a. Pascal nous en parlait, elle habite dans Limoilou, tu sais. Encore crasseux dans Limoilou, il y a eu la poussière rouge. Je comprends les résidents d'être inquiets.
Mm. Ben oui, puis tu sais, c'est un débat sur le terminal en tant que tel, mais c'est un débat parce qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Tu as la vision économique, tu as la vision environnementaliste, tu as les citoyens à travers tout ça. Fait que ce sera pas évident. Puis être le maire de Québec, je pense que là, c'est un bon test de leadership, encore une fois. Ce débat-là, il partira pas demain matin. Fait que les enjeux économiques d'un côté, les retombées économiques importantes pour la région, le positionnement stratégique du port de Québec, l'argument aussi de la souveraineté économique, la diversification, de la compétitivité internationale. Ça, je pense qu'en ce moment, ça peut parler à bien du monde là, dans le cadre de la guerre tarifaire avec les États-Unis, mais ça se heurte aux enjeux environnementaux, les impacts sur les milieux naturels, l'augmentation du trafic maritime puis du trafic de camions. Ça, je pense que ça stresse beaucoup le monde de Limoilou. Moi-même, si j'étais à Limoilou, je serais bien stressée avec ça. Moi, je serais curieuse de savoir, tu sais, les conseillers municipaux dans le coin, là, je vous le rappelle, ils ont été élus haut la main. C'est des gens de Québec fort et fiers, que ce soit Raymond Poirier à Limoilou, Éric Courtemanche-Barry dans Robert-Chefard. Je serais curieuse, moi, d'avoir leur pouls là-dessus puis voir comment ça se passe sur le terrain avec la mobilisation citoyenne qui est déjà bien enclenchée, là.
Tabarouette que c'est compliqué, hein, Jeff?
Ouais.
Alicia, ça me fait penser au balbutiement du projet de tramway. Où est-ce qu'on met
vraiment
ça? Qu'est-ce qu'on détruit? Voie unique? Où est-ce qu'on exproprie le monde? Puis ça, pour avoir un projet de transport structurant qui ne fait pas l'unanimité. Là, cette fois-ci, c'est majeure partie économiquement parlant. Ça ferait énormément de bien à la ville. Puis là, on se dit à quel prix? C'est sûr qu'il n'y a rien qui va empêcher quelqu'un souffre, peu importe le transport, l'environnement et autres, mais il faut aussi avancer. Alicia, c'est difficile en politique, ça.
Ben oui, c'est difficile, puis je pense qu'il y a un potentiel de créer des tensions à l'interne au sein de l'équipe marchand. Tu sais, les conseillers municipaux sur le terrain, peut-être qu'ils comprennent l'aspect économique de plus global. Bon, on s'entend là-dessus, mais en même temps, si eux autres sur le terrain, ils se font dire par leurs citoyens que leurs citoyens sont inquiets, leurs citoyens sont mécontents, c'est plus difficile à ce moment-là de venir leur servir cet argument économique général, tu sais. Puis j'ai tantôt parlé de Laurentia, l'ancien projet qui a été rejeté. Laurentia, à l'époque, Suzanne Véraud, qui était la conseillère municipale à Limoilou, elle s'était dissociée de la ligne de parti d'Équipe Labombe parce que c'était pas viable comme position à tenir auprès de ses citoyens. Fait qu'il y a cet enjeu-là économie-environnement, mais il y a aussi cet enjeu-là pour les élus locaux, tes citoyens que tu représentes et les intérêts plus généraux de la Ville de Québec. Ça, ce sera pas évident là, à naviguer. Là.
En effet, puis je rappelle que Raymond Poirier était 15 ans à la tête du conseil de quartier de Limoilou contre le projet QSL. Donc, il est sur... il est branlant, là.
C'est important de le mentionner, t'as raison,
Jeff. Poirier. Alicia, je termine avec le garage Newton qui est toujours au neutre. On apprenait ça à la Une du Soleil ce matin. Excellent texte, encore une fois, de la collègue Émilie Pelletier qui fait de l'excellent travail.
Pourtant, on voulait une relance rapide.
Ouais, c'est ça. Mm. Ça fait un an qu'on a hiverné ça. On a dépensé à peu près 100 millions. Là, c'est au neutre. Christine Fréchette, là, a fait des crochets là, sur, pour 100 jours. Là. Elle fait un crochet à chaque jour de trucs qu'elle voulait que la CAQ réalise. Sam, il serait temps qu'on se positionne du côté de la CAQ là, pour la capitale nationale avec ce projet-là.
Ben oui, puis je pense que ça va tenir beaucoup sur les épaules aussi du ministre régional là, qui
ouais, Jean-François Simard.
Beaucoup là, des ministres à Québec. Là, fait que Jean-François Simard, ça va être énormément de pression sur ses épaules parce que 5 mois avant l'élection, mais je pense qu'on va évaluer la capacité du Conseil des ministres actuel à régler des irritants comme celui-ci plutôt qu'à bon, réaliser des grandes choses là, d'envergure ou régler des grands enjeux de société. Fait que le garage Newton, ça en fait partie. Explosion des coûts, mais le fait est que le projet y était entamé. Le besoin, il est flagrant. Les garages actuels sont à pleine capacité. Je comprends de ce qui est écrit dans les médias là, que le RTC a déposé une proposition. Il y a une proposition actuellement sur la table, quelque chose qui est un peu moins coûteux, une genre de voie de passage de ce que je comprends, où chaque partenaire, le RTC et le gouvernement mettent un peu d'eau dans leur vin. Jean-François Simard, il les connaît les enjeux à Québec. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour lui de faire un pont avec Benoît Charrette, qui est nouveau ministre des Transports, qui va devoir apprivoiser très rapidement ses dossiers? Ce serait vraiment une grande réussite du côté du gouvernement de Mme Fréchette et du côté du RTC et de Bruno Marchand de réussir à débloquer ça avant l'automne, parce que déjà un an là, sans qu'il se passe rien, chaque jour coûte de l'argent là, quand les projets sont mis sur la glace.
Là. Exactement, parce que c'est pas vrai que là, vu qu'on l'a mis sur pause, il n'y a pas des choses à faire justement pour conserver ce qu'on
juste
a
juste l'entretien,
fait,
hey, ben faut pas que ça dépérisse.
Oui. C'est ça.
Puis les fournisseurs, les gens qui... le RTC a déjà octroyé des contrats. Il y a des enjeux financiers assez importants là, dans ce dossier-là.
C'est clair. Alicia Despins, toujours un bonheur de te parler. Je te souhaite un excellent week-end et on se reparle politique municipale la semaine prochaine.
À la prochaine.
Salut, Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale chez nous à Boulevard 101, ex-conseillère municipale pour Vanier Duberger. Dernière pause dans l'émission On en jase et par la suite, Lambert Drainville s'installe avec nous. Un bulletin pour la première semaine de Christine Fréchette et... Magie! Les médecins spécialistes se sont entendus avec le gouvernement.
Et ça semblerait que c'est parce qu'on a eu un changement de direction de la CAQ que ça s'est passé. Je veux savoir ce qu'il en pense.
Apparemment, moi aussi, c'est pour ça. On a gardé le meilleur pour la fin.
Une bonne soirée sur le Sunday, ça c'est sûr.
Et voilà. Alors, on en jase sur Boulevard 102.
OK, mais c'est pas pour rire du monde, là. C'est pas genre, hey, la toune des séries de Max Larouche, deux claps, un wow.
Il y a personne qui clappe la toune des séries de Max Larouche.
Okay.
Personne n'a demandé, personne clap.
Ça le mérite d'être
désolé,
clap.
Désolé, Max.
Quand on dit un clap, on fait-tu le clap?
Tu clap?
Ouais,
faut-tu
clapper?
Ben oui.
OK, il faut clapper.
Ben, okay. Si je te dis que je vais à droite, vas-tu à droite, Denis?
Oui.
Bon, ben, si je clap, clap.
Elle
ça a pris des années, bon. Audrey, à répondre à Denis.
Elle te l'a ramassé.
Gravel dans le retour. Tous les jours en semaine, 14h.
Durant le Vauxfest de Volkswagen, profitez d'offres exceptionnelles à 0% sur tous nos modèles.
Fait que le Taos, il est à
0%.
Puis le Tiguan,
0%.
Puis la Golf GTI,
ben, ils sont tous à...
Ah! Ben là, je t'ai eu, par exemple!
0% aussi, Pierre-Luc. Qu'est-ce que tu comprends pas dans tous nos modèles?
Non, je comprends. C'est juste que c'est vraiment des bonnes offres pour des voitures très le fun à conduire. Là.
Durant le Vauxfest, profitez de financement à 0% jusqu'à 60 mois sur le Taos et jusqu'à 24 mois sur tous les autres modèles. Faites vite, l'offre prend fin le 30 avril 2026. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
Le marché du printemps prend vie dans la cour centrale des Galeries La Capitale du jeudi au dimanche jusqu'au 3 mai. Nos marchands locaux sont au rendez-vous pour vous faire découvrir leurs créations et partager leur passion. Détails au galerieslacapitale.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beasts et Sugar Rush, en plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Woohoo!
Sentir le plaisir, Playojo.
Chérie, oublie les lasagnes, faut fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un set de jeux d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
C'est la grande vente à yoye chez Super C. On est complètement tombé sur la tête.
Cette semaine, la demi-once de porc frais désossé est à 1,94 la livre ou 4,28 le kilo. À ce prix-là, je fournis les sons de cuisson. En plus, l'emballage de 4 yogourts grecs Oikos de Danone, format 100 grammes, est à 3,47. Et les biscuits pâtes d'ours de Dare sont à 1,99. Et pas besoin de capoter, il y en a assez pour tout le monde. Hey, c'est super, Super C! Valide jusqu'au 29 avril en magasin en ligne. Détails sur superc.ca.
Vous avez un véhicule à vendre? Chez Lévy Ford, on rachète votre véhicule sans obligation d'achat. Toutes les marques sont acceptées et obtenez la meilleure valeur pour votre véhicule. Et si vous voulez changer, Lévy Ford a aussi les meilleures offres pour votre nouveau camion. Lévis Ford, les forts de Lévis.
Chez Canampon, votre travail change tout. Chaque jour, vous contribuez à bâtir des structures d'acier qui relient le Canada. De l'ingénierie à la production, c'est du concret, du solide et du vrai travail d'équipe. Si ça vous tente de faire partie de la famille, on recrute présentement des soudeurs, des assembleurs, des mécaniciens et des ingénieurs. Si vous voulez un emploi qui compte pour vrai, venez bâtir avec nous. On vous attend. Postulez maintenant sur canamembauche.com. Une carrière qui se tient debout.
Le chantier est en arrêt. Les employés ont besoin de toilettes. Les opérations ralentissent. La pression est à son maximum. Ça devient critique. Appel de renfort. Les voilà, Salivac. Les camions arrivent. Positionnement parfait. C'est parti. On livre, on installe, on pompe. Toilettes prêtes. Pompage en action. Le chantier repart.
Salivac, Salivac, Salivac.
Quel revirement.
Salivac, Salivac, Salivac.
Inventaire, service, qualité. Quand ça compte vraiment, on est là.
Salivac.
Jusqu'à dimanche, c'est le retour de la très attendue vente camion Nutriance chez Dino. 50% de rabais sur le deuxième sac de valeur égale ou moindre. Cadeau aux 100 premiers clients et plusieurs autres spéciaux magasins. Faites vos provisions seulement chez Dino.
La vente étiquette rouge est de retour. Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein d'essence.
On en jase à Boulevard 102. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
À partir de 14h, c'est le retour de Gravel, mais avec Audrey Véro et Nathan Meilleur aujourd'hui. Nathan Meilleur, que je vais voir au Gang Show ce soir, il y participe également.
Oui, parce que toi aussi, rappelons-le.
À compter de 20h. Et il y aura le segment Québec-Montréal 17h04 avec Richard Martineau. Hey, parlant de Montréal, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'agents de sécurité pour gérer le Centre Bell?
Je trouve ça toujours cocasse, mais en même temps, ben moins quand il y a des débordements épouvantables. T'sais, c'est le fun de festoyer,
ben oui.
Moins quand t'es rendu à brûler quelque chose ou faire pogner quelque chose en feu. Mais bon, c'est sûr qu'on fait attention parce qu'il y a un match des Canadiens ce soir qui pourrait vous rendre ben heureux. Sécurité accrue autour du Centre Bell, et ça, on nous le dit.
Exactement. Il y a un incident sur le pont de l'île d'Orléans.
Exact, au début du pont, circulation en alternance en ce moment.
On va le rejoindre, c'est notre chroniqueur politique, il est avec nous les mercredis et vendredis, là, il est muni de son chandail du Canadien de Montréal.
Anderson, il nous le montre,
Josh
le bon.
Josh Anderson, Lambert Drainville, le bon oh, yes. De la chronique politique, vu que Josh Anderson donne les mises en échec, celui qui taque les adversaires.
OK, ouais, j'aime ça, j'aime ça. Écoute, j'ai toute une série, puis je vais aller au centre-ville tantôt là, pour profiter de l'ambiance. Je pense que ça va être électrique,
magnifique.
Mes chers amis.
Lambert, première semaine de Christine Fréchette à la tête du Québec, premier cabinet ministériel. On l'a vu qu'elle a fait de la place à l'équipe de Bernard Drainville. Grosse annonce hier pour l'hôpital Rosemont-Maisonneuve. Tu qualifies comment cette première semaine-là de Christine Fréchette?
Toi, tu la qualifies comment? Mettons, je te renvoie la question.
Ben moi, je pense que, mettons, je vais lui donner une note de 7 sur 10 parce qu'elle suit son plan de match. On a entendu dire qu'elle avait s'était établi un plan de match sur 100 jours et qu'elle voulait mettre un crochet à chaque jour. Par contre, je crois pas qu'à l'heure actuelle, elle inspire la population. Donc, je pense pas qu'elle est en train de créer ce revirement de situation tant souhaité à la CAQ comme on l'a vu avec Mark Carney au Parti libéral du Canada.
Ouais, nous, on s'en est déjà parlé. Jeff, l'exemple, Mark Carney, on en parle souvent, là, mais c'était une conjoncture bien particulière, Mark Carney.
Exactement.
Je pense que c'est petit train va loin dans son cas. Oui, la CAQ est super basse, fait que non, ce sera pas facile. Écoute, Charles Millard a eu une mauvaise semaine de son côté, fait que c'est... Je pense que j'aurais tendance à dire que c'est un bon début, c'est un bon premier 12 jours. C'est drôle parce qu'elle se positionne, là, tu vois clairement qu'elle se positionne comme la première ministre qui réfléchit, qui consulte pour prendre des bonnes décisions. Puis c'est ironique que ce soit, c'est un petit peu ce que Bernard Drainville lui reprochait durant la course, d'être toujours en train de réfléchir, de consulter. Mais présentement, ça semble se retourner à son avantage parce qu'elle se bâtit un petit peu une réputation de c'est pas la personne la plus époustouflante, disons ça comme ça, flamboyante, exact. Mais elle livre des résultats, tu sais, mine de rien, en 12 jours, là, en tête avec la FMSQ, HMR, taxe de bienvenue. Elle a même eu des excuses du fédéral. Écoute, un beau cerise sur Sunday.
Elle passe partout. On dirait qu'elle passe partout aussi. Là. Elle ne crée pas de flamèche en du moins en ce moment. Là.
Non, puis je pense que c'est un petit peu ça aussi son approche, tu sais, d'avoir des bons liens avec les municipalités, avoir des bons liens avec le fédéral. Voyons voir jusqu'où ça va l'amener. Il faut quand même mentionner que, tu sais, Il y avait une stratégie de transition qui avait été établie là, au bureau du premier ministre depuis longtemps. Ces décisions-là, là, l'entente avec la FMSQ, elle était essentiellement bouclée. Depuis que Mme Duranceau est en poste au Trésor, je pense que ça se passe très bien. Et au fond, Mme Fréchette est arrivée. Je pense que oui, c'était un petit peu cristallisé là, les relations entre... François Legault et la FMSQ avec les médecins plus généralement, puis France-Hélène Duranceau a apporté un vent nouveau, puis je pense que la différence, ça a été, comme comme Vincent Oliva, le président, l'a mentionné, le 1,5% aux responsables de services, les chefs de service qui font le lien entre la haute direction puis le terrain, les médecins du terrain pour mettre en place les programmes cliniques, là, je pense que c'est juste Mme Fréchette a été prête à aller là, puis M. Legault était arrêté sur ses positions. Mm-hmm. Hey, je pense qu'il y avait peut-être aussi une petite crotte sur le cœur, Jeff, avec Lucien Bouchard,
mon
ancien mentor. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça. Fait que oui, l'arrivée de Mme Fréchette, je pense que ça a certainement aidé, mais maintenant, il n'y aurait pas eu de signature si ce n'était pas de l'argent de plus qui a été mis sur la table, parce qu'on parle de 11%. Mais avec le 1,5%, là, on est plus.
Oui, c'est ça, avec la bonification, on est plus à 12,5. Je te fais entendre justement France-Hélène Duranceau, une échange qu'elle a eu avec Mario Dumont à son émission sur LCN ce matin, concernant justement l'arrivée de Christine Fréchette dans le dossier des négociations.
Non, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que M. Legault, à un moment donné, à la fin, c'était pas à lui de s'engager pour le prochain chef.
Okay.
Alors, il restait des choses à régler. Puis tout ça, on les a fait ces choses-là, on les a fait entériner par la nouvelle première ministre.
Quand ça a été prêt à signer, M. Legault était tellement vers la fin qu'il voulait...
On n'était pas encore prêt. Il restait des choses à discuter. Il y a eu un blitz de négociations, honnêtement, encore tout le week-end après l'arrivée de Mme Fréchette pour que ça fonctionne.
On l'a-tu stagé aussi, Lambert Drainville, cette arrivée-là? C'est-à-dire que François Legault, à un moment donné, il a fait par exprès pour lever le pied, pour dire « Hey, la nouvelle personne qui entre, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville, elle va arriver tout de suite avec une nouvelle positive. »
Ouais, exact. Puis c'est ce que je te mentionnais par rapport à la transition qui avait été réfléchie depuis longtemps. Puis il y a aussi une certaine vérité dans le fait que tu veux pas prendre des grosses décisions non plus pendant qu'il y a une course à la chefferie de risque d'avoir une influence... d'avoir une influence là-dedans. Fait que non, c'est sûr que ça faisait partie des éléments qui ont t'sais, dans le fond, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une petite pile de dossiers sur le dessus du bureau du premier ministre, une pile de dossiers qui allait être aux mains de là où celui qui allait gagner. Et dans ce cas-ci, Mme Fréchette. Fait qu'elle est arrivée, il y avait une petite pile de dossiers prioritaires, des dossiers sur lesquels il était prêt à aller de l'avant. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui avait été réfléchi d'avance, Jeff.
Et autre que réfléchi, travaillé d'avance. C'est pas juste Mme Fréchette, depuis son assermentation, qui a réussi à dénouer tous les... Il y a l'équipe qui a travaillé, là. Que ce soit M. Drainville ou Mme Fréchette qui avait été à la tête de la CAQ, ce serait dénoué?
Oui, oui, absolument. C'est des dossiers qui sont travaillés sur plusieurs mois, là. Ça fait longtemps que... Des années même, dans le cas de HMR, par exemple. T'sais, fait que c'est des dossiers qui... Qui... T'sais, c'est sûr qu'il fallait qu'elle aille de l'avant, il fallait qu'elle soit prête à débloquer ce 75 millions par année-là, parce que c'est une chose de dire on met plus d'argent sur la table, mais c'est de l'argent qu'on va payer, t'sais. Fait qu'on verra au résultat. Mais Mme Fréchette est arrivée, l'essentiel de l'entente était pas mal ficelé, puis elle était prête à aller plus loin sur le 1,5% pour les chefs de service, ce que M. Legault était pas prêt à faire. Fait que c'est là que ça s'est dénoué.
En terminant, le gouvernement a quand même de la pression sur eux parce que dans cette entente-là, ce que j'ai compris, Lambert Drainville, c'est que le gouvernement prend un 2% pour améliorer l'accessibilité aux salles d'opération. Donc, ils n'ont pas le choix de livrer la marchandise, sinon ils vont payer le 2% même si les quotas sont pas atteints.
Oui, puis c'est, je veux dire, ça fait un petit peu, ça fait du sens là, tu sais, pour les, c'est ce que les médecins spécialistes demandaient depuis longtemps, puis ça fait du sens de dire, ben si vous voulez qu'on livre plus de résultats, rendez-nous disponible plus d'argent sur la table, des incitatifs, mais aussi donnez-nous les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Et le gouvernement s'est engagé, fait que les deux côtés s'engagent. Je pense qu'on va juger cette entente-là au résultat, Jeff, on verra. Écoute, ça doit être renégocié dans 2 ans. Ça va arriver vite, puis je pense qu'il faut se rappeler aussi de tout le capital politique qui a été dépensé dans cette saga-là. On se rappellera quand même, hein, Christian Dubé qui quitte, Lionel Carman qui quitte aussi dans la foulée de tout ça. C'est quelque chose qui aura fait énormément mal au gouvernement de la CAQ, puis je pense qu'ils doivent s'en réjouir que cette saga-là soit terminée. Mais autant eux que nous, dans la population, gardons ça en tête, là, dans 2 ans, ça s'en vient vite.
OK, oui.
Mais premièrement, c'est quasiment... ils n'auront quasiment pas terminé l'implantation de ce qu'ils vont avoir fait, puis il va falloir encore renégocier. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que le docteur Vincent Liva de la Fédération des médecins spécialistes a dit que c'est le départ de François Legault qui aurait permis la conclusion de cette entente-là?
Ben, tu ne l'entendras jamais dire que c'est parce qu'il y a plus d'argent qui a été mis sur la table. mais c'est sûr que c'est de l'argent. Mais comme je le dis, c'est jamais tout noir ou jamais tout blanc. Là. C'est souvent dans les nuances de gris. Je pense que dans ce cas-ci, encore des nuances de gris. Oui, M. Legault était arrêté sur ses positions. Non, il n'était pas prêt à aller plus loin. Les relations étaient très, très compliquées. Et l'arrivée de Mme Fréchette, un vent nouveau, un nouveau ton, une nouvelle énergie aussi, combiné au fait qu'elle a été prête à mettre ce 75 millions-là par année sur la table, nous voilà avec une nouvelle entente.
Lambert Drainville, c'est toujours un bonheur de te parler. On te parle à chaque mercredi et vendredi. Je te vois avec ton gilet de Josh Anderson.
Go Habs, go!
Oui, va au centre-ville, va passer une belle soirée. Tu le mérites, mon chum. Va crier des Go Habs, go! On se reparle mercredi, puis on se texte en fin de semaine d'hockey.
On se texte en fin de semaine. Passez un beau week-end, messieurs, dames. Je vous aime d'amour.
Hey, nous aussi, on t'aime d'amour. Lambert Drainville, chroniqueur politique, vulgarisateur d'actualité. Vous le retrouvez sur ses plateformes de médias sociaux. Et là, compte tenu qu'il portait le gilet de Josh Anderson, le numéro 14 du Canadien de Montréal, le numéro 17, devrais-je dire, je l'ai surnommé le goon de la chronique politique.
C'est vrai, pareil.
Ça les mises en échec.
C'est vrai, pareil.
Ouais.
Ah non, mais vous allez vivre un méchant beau trip. T'sais, vous disiez des tripeux de hockey.
Ah,
il y a quelque chose
l'affaire.
De le fun. Vous attendiez ce moment-là depuis un bon bout.
Oui.
Je vous souhaite que ça perdure.
Ben, c'est ça. Le Lightning de Tampa Bay est une méchante bonne équipe de hockey. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont 2 premiers trios qui n'ont rien à envier à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Et là, ce soir, Pascal, pour t'expliquer, ça va être un jeu de stratégie. OK? Parce qu'à Tampa Bay...
Explique-moi ça.
Exactement. À Tampa Bay... L'entraîneur, lorsqu'on joue à Tampa Bay, a le dernier choix pour le changement de joueur. Donc, l'équipe visiteur doit envoyer ses joueurs sur la patinoire. Là, l'arbitre se tourne vers l'entraîneur local puis il dit « Amène tes joueurs ». Alors, ce que John Cooper faisait, c'est qu'il pouvait toujours mettre son trio plus défensif, le trio mené par l'excellent joueur de centre Anthony Cirelli, contre le trio de Nick Suzuki du Canadien. Et ça a fait en sorte qu'à 5 contre 5, le trio de Nick Suzuki a marqué aucun but. Mais là, ce soir, Là, l'arbitre va dire à John Cooper, les visiteurs, amène tes joueurs sur la patinoire. Là, Lightning va embarquer sur la patinoire. Et là, il va se tourner vers Martin Saint-Louis puis il va dire, c'est à ton tour d'amener tes joueurs sur la patinoire. Oh. Alors là, tu comprends que si John Cooper envoie Anthony Cirelli sur la patinoire, ben Martin Saint-Louis n'enverra pas Nick Suzuki. Oh. Il va vouloir l'envoyer contre un autre trio. Alors là, ça, c'est un jeu très important de stratégie de hockey.
C'est pas juste du sport, là.
Donc
de la psychologie
là,
en arrière
exactement.
De ça.
Alors là, ce que vous allez voir dans le match de ce soir, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas au Gong Show, je le rappelle, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir le Lightning de Tampa Bay embarquer, exemple, le trio de Nikita Kucherov, le Canadien répliqué avec Nick Suzuki. Mais dès que la mise en jeu va être faite, Lightning va traverser la ligne rouge, va envoyer ça dans le fond du secteur du Canadien, va aller changer, puis c'est le trio Cirelli qui va embarquer. Et là, vous allez voir ce jeu de chaise
toi, t'es sûr
musicale.
De ça, là.
Ah oui, ça va se passer comme ça. Et là, il va y avoir cette espèce de jeu de chaise musicale-là qui va se produire pendant tout le match.
Juste ça, ça demande énormément de concentration puis t'es pas encore en train de jouer pour jouer. Là.
Exactement. Donc, une stratégie aussi que John Cooper pourrait adopter, c'est l'excellent ailier Brendan Eagle, qui a 3 buts depuis le début de la série, qui est excellent défensivement aussi. Au lieu de le mettre avec Cirelli et Gunzel, ça va être de l'amener avec Pointe et Kucherov pour que si jamais on amène Suzuki, ben au moins on a un bon joueur défensif sur ce trio-là. Fait que tu vas voir des fois, il va y avoir des changements de trio. Ça va être extraordinaire comme stratégie, comme match.
Un gros match, ça veut dire.
Ouais, ce soir, 19h, Lightning Canadien, 3e match de la série. Le 4e match sera dimanche à 19h. Pascal CV, je te souhaite un excellent week-end.
À toi aussi, amuse-toi ce soir. Ah, on a hâte de voir ça.
Ouais, je vais m'amuser ce soir. C'est un gros week-end sportif. Allez, les amis sportifs, les auditeurs, on en profite. Le retour de Gravel s'amène avec Audrey Véro et Nathan Meilleur. Nous, on se dit à lundi midi. Salut, Pascal.
Salut. Gravel.